Bonsoir tout le monde. Je vous rappelle rapidement ce qu'on avait déjà vu la semaine dernière. Donc on avait vu que la question principale posée par la critique de la raison dialectique, c'était celle de savoir si l'histoire est compréhensible dans l'ensemble de toutes ses interactions, et en particulier si elle l'est de manière dialectique, c'est-à-dire si on considère que l'évolution des sociétés, donc l'histoire, fonctionne par contradiction et dépassement, comme le disaient Hegel et Marx. Et, en tout cas, on avait déjà vu que Sartre disait « si c'est le cas, ça ne peut pas être de manière déterministe », c'est-à-dire on ne peut pas considérer que cette évolution historique se fait par une causalité du même type que la causalité naturelle, physique, chimique, biologique. Et inversement, dans la nature, on ne doit pas essayer de voir une dialectique. Parce que justement, la dialectique, ce dépassement dialectique doit être considéré comme quelque chose qui est réservé aux êtres conscients, parce que c'est eux seulement qui peuvent faire en sorte que le passé et les conditions présentes ne causent pas directement un effet, mais soient repris en fonction de finalités, et donc visant un futur qui n'est pas encore, qui peut seulement être projeté, anticipé, et c'est ça en fait qui fait l'action libre, c'est le fait de reprendre ce dont on dispose déjà, mais en faire quelque chose de totalement nouveau, donc avoir une véritable création, et ça donc, ça n'est possible que pour des êtres conscients. Donc c'était ça seulement qui permettait une évolution de type dialectique. Et on avait déjà commencé à discuter sur la question de la vérité en histoire, on va y revenir, et aussi sur la manière dont Sartre finalement arrive à concilier marxisme et existentialisme, et on va beaucoup y revenir aussi. Donc je vous propose de voir d'abord, avant de passer vraiment à la première partie de l'ouvrage, je vous propose de revoir encore un tout petit peu les œuvres que j'ai appelées de transition, donc celles de l'immédiate après-guerre, où Sartre pose toute une série de questions pour essayer de se rapprocher du marxisme, où il lit énormément Hegel, Marx, aussi d'autres ouvrages de la tradition marxiste, et où en fait il prépare vraiment, c'est vraiment où il réunit tous les documents qui vont lui servir pour sa fameuse critique 15 ans plus tard. Alors notamment dans les cahiers pour une morale, donc on avait déjà vu quel type de morale Sartre essaye de penser dans l'héritage, dans la suite de l'être et le néant, et qui lui correspond, donc une morale de la liberté, de la générosité. Et dans ce livre, il y a aussi quelques dizaines de pages qui sont consacrées à un questionnement sur l'histoire. Et vous allez voir que je vais donner quelques objections ou hésitations ou perplexités de la part de Sartre à propos de l'histoire qu'il va réaffronter dans la critique et résoudre, en fait, pour la plupart d'entre elles. Donc c'est intéressant de voir aussi sa pensée en train de se faire et comment il a d'abord buté sur des difficultés. Alors parmi ces difficultés, par exemple, il y a celle que pour lui, pour sa philosophie, il y a une irréductibilité de l'individualité. Donc l'individualité de la conscience est absolument irréductible, c'est-à-dire que ça ne peut pas être justifié, ce qui arrive à un individu ne peut pas être justifié par l'histoire comme totalité qui le dépasse. En fait, il pense à un exemple très précis qui est celui de la souffrance ou du sacrifice de l'individu. Si on a une conception selon laquelle l'individu n'est qu'un moyen terme, une médiation, un élément d'un tout, et que c'est au niveau du tout seulement qu'on peut avoir une intelligibilité, éventuellement même un jugement de valeur. Est-ce qu'on va vers le progrès, par exemple? Est-ce qu'on va vers le mieux? Bon, si on le juge de cette façon-là, le sacrifice d'individu peut être justifié. On pourra toujours dire, bah, ça a servi à ça, et grâce au sacrifice de autant de vies, on est passé à un stade supérieur de l'histoire. Et Sartre, il est très réticent par rapport à ça, justement. C'est pour ça qu'il dit, non, en fait, l'individualité, elle est irréductible. Elle est injustifiable par un mouvement qui la dépasse. Pourquoi? Mais parce que si on se place du point de vue de chacune de ces consciences, et c'est elle qui existe concrètement, c'est pas l'histoire dans son ensemble qui existe concrètement, c'est chaque conscience individuelle. Si on se place du point de vue de chacune, elle n'a que sa vie. Supprimer sa vie, c'est supprimer tout. L'ensemble de ce qu'elle va perdre n'est pas rattrapé par le fait que, grâce à ça, un mouvement de l'histoire, finalement, va vers le mieux et le bilan serait positif. Et il dit, la souffrance des enfants d'Oradour, hein, on souffrait encore de la guerre, hein, la souffrance des enfants d'Oradour n'est pas justifiable par une totalisation historique. Donc, première réticence, et en fait, il ne va pas abandonner ça. Hein, donc, de nouveau, on est dans cette tension entre la conscience individuelle, qui est vraiment le concret, le vécu, et puis des mouvements qui la dépassent. Alors, une autre remarque, c'est que toute action qui s'inscrit dans le tissu social, qui s'inscrit dans la matérialité, est forcément aliénée. Aliénée au sens où elle va tout de suite être déformée, déviée par les autres, par la manière dont on va la recevoir, par la manière dont on va l'utiliser, dont d'autres vont l'utiliser, ou simplement par la matière ou par les institutions établies. Et donc, en fait, il faut savoir que ça c'est quelque chose aussi qui est irrémédiable. Toute action va être aliénée. Et aliénée veut dire simplement, elle va échapper à son auteur, elle va lui devenir d'une certaine manière, dans une certaine mesure étrangère, et donc elle va être modifiée par les autres. Mais c'est ça, justement, c'est en ça que consiste l'action sur l'histoire. C'est que précisément, on s'offre à une modification. Mais on peut toujours aussi la reprendre et la remodifier en retour. Donc, la réaction que donne une certaine action, on peut à son tour l'utiliser pour en faire quelque chose de à nouveau autre, de à nouveau sien et propre. Donc, en fait, ces dépassements continuels des actions et des réactions fait aussi construit, en fait. C'est ça qui construit l'histoire et ça le fait de manière libre. Donc là, on a une conciliation tout à fait possible. Une question aussi, c'est de savoir si c'est une question de connaissance, de savoir si on peut embrasser l'histoire totale, ou même sans compter la fin éventuelle, une fin éventuelle de l'histoire, mais même l'histoire présente dans sa totalité actuelle. Est-ce qu'on peut essayer de l'embrasser, hein, donc par cette dialectique enveloppante, tout en étant à l'intérieur? Donc, comment est-ce qu'on peut, à partir d'un point de vue situé, à l'intérieur même de cet objet, pouvoir avoir une vue d'ensemble de cet objet? Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est une illusion? Et donc, bien sûr, on dénonce la manière trop courante du narrateur extérieur, hein, trop habituel d'un narrateur qui, se sentant extérieur, en fait comme s'il avait son objet devant lui et ne se rend pas compte à quel point il est plongé dedans. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui doit être assumé, accepté. C'est clair que tout narrateur, tout philosophe qui étudie l'histoire, il s'étudie en même temps, il est dedans. Et puis, il répond, alors ça, c'est sur un point un petit peu plus particulier, il répond aux marxistes sur la question du conditionnement par l'économique. Oui, la sphère économique, les moyens de production conditionnent les superstructures, mais inversement aussi, il faut dire que les superstructures reconditionnent à leur tour les structures économiques. Et d'ailleurs, dit-il, Marx et Engels, ils le savent très bien, parce que sinon, ils n'auraient pas écrit toutes leurs œuvres. Si les idées qui circulent ne servent à rien par rapport à l'évolution économique, à quoi bon écrire Le Capital? Et puis, il insiste aussi sur le fait que si on essaye de comprendre l'histoire de l'humanité, on ne peut pas s'en tenir à l'histoire d'un continent ou d'une région du monde. Il faut aussi inclure l'histoire des autres régions. Il cite à ce moment-là l'histoire de l'Orient, que Marx et Engels avaient d'une certaine manière évoqué par l'intermédiaire des colonisations, mais ça ne suffit pas parce que les colonisations, elles ne rendent pas compte de toute l'histoire antérieure, évidemment, à la confrontation. Et il ajoutera plus tard qu'il ne faut pas oublier non plus les sociétés dites sans histoire, qu'on a cru un moment sans histoire et puis qu'on appellera éventuellement à histoire lente ou froide. Disons donc toutes ces sociétés qui ont été décrites par les anthropologues et qui sont simplement à un niveau justement de matérialité technique très éloigné du développement des autres civilisations. Donc il faut les inclure, il y a une histoire aussi là et il faut montrer comment elle est en relation avec l'histoire du reste de l'humanité. Donc tout ça se trouve déjà dans les cahiers pour une morale, voyez. Et je vous propose aussi de lire le texte 3 donc du document de la semaine dernière. Qui reflète des préoccupations de Sartre pendant cette période et qui montre aussi à quel point, en fait, il adhère à l'importance accordée au développement technique par rapport à toute la politique et à toute la, et à toutes les autres relations sociales. Je lis ce texte. « Si l'avenir est conçu à partir de la situation vécue avec ses limites. » Donc ça, c'est toujours le cas, hein, bien sûr. Donc l'avenir, toujours conçu par n'importe qui ou même par un groupe, à partir donc, des situations vécues, de la situation actuelle, actuellement réalisée, avec ses limites. Hein, bon, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout connaître de cette situation. Donc c'est les limites dans lesquelles on se trouve. Et si l'avenir propre est démenti par l'avenir vrai, alors ce qu'il appelait l'avenir propre à ce moment-là, c'était l'avenir vécu par chacun, donc propre à chaque conscience ou individu, est démenti par l'avenir vrai, c'est-à-dire celui qui finalement va effectivement se réaliser, lui-même, donc l'avenir vrai, lui-même défini par les révolutions techniques, alors l'avenir esquissé par Marx avec la révolution au bout, est précisément démenti par la révolution atomique. Donc, comme beaucoup d'autres, Sartre est très préoccupé. Bon, on a été, évidemment, il y a eu la démonstration des bombes lâchées sur le Japon. On a été extrêmement bouleversé par ce qui devenait désormais une capacité technique de détruire l'humanité en un instant. Et pour Sartre, ça lui paraît à ce moment-là compliquer vraiment l'œuvre de la révolution. Ça lui paraît la retarder beaucoup. Pourquoi ? Ben, tout d'abord, la révolution est devenue impossible et remplacée par la guerre. Alors, on est sorti de la guerre de 40-45, mais les guerres, elles continuent constamment. La guerre froide commence. Et cette guerre froide, elle va se faire constamment par pays interposés. Il va y avoir constamment des guerres. Quel rapport avec la bombe atomique ? Ben, la bombe atomique, c'est la menace que la prochaine guerre va peut-être détruire totalement l'humanité. C'est la menace qu'il soit un jour possible pour un État d'étouffer une révolution en utilisant la bombe atomique. Pour le moment, ce n'est pas possible parce que ça n'y en tirait en même temps, mais qui sait non. Donc oui, il y a là un moment où on est en droit d'être pessimiste, disons. Ensuite, il y a dictature bureaucratique et technique remplaçant peu à peu l'oppression capitaliste. Donc, non seulement l'oppression capitaliste, bon, elle demeure telle qu'elle a été au XIXe siècle, mais elle est transformée, remplacée ou plutôt aggravée par cette dictature bureaucratique. Et quel rapport de nouveau avec la bombe atomique ? Mais le choix de ce type d'énergie à très grande échelle et très dangereuse implique que nécessairement, ça doit être géré, contrôlé et surveillé par les États. Ça ne peut pas être organisé par des petites associations, qu'elles soient publiques ou privées, comme le sont par exemple les énergies renouvelables. Hein. Et donc le choix de cette énergie civile est très lourd en termes d'organisation bureaucratique et en termes de contrôle, puisqu'elles sont dangereuses. Donc ça augmente le phénomène d'installation bureaucratique et de surveillance généralisée, de contrôle des populations, et donc de là un nouveau type d'oppression. Enfin, l'homme général, devenu facteur historique en tant que général, réclame la généralité, c'est-à-dire la dictature égale pour tous d'un État abstrait et la liberté et l'égalité dans la totale interchangeabilité. Il y a eu beaucoup d'études déjà avant la Seconde Guerre mondiale à propos de l'atomisation des masses, hein, la massification des populations, c'est-à-dire le fait que dans la masse, l'individu n'a plus justement de personnalité propre, que chaque individu est remplaçable, interchangeable avec n'importe quel autre. C'est dû à des circonstances économiques parce qu'il y a une employabilité des personnes qui permet leur échange, la non-importance, l'insignifiance de ce qu'ils sont en dehors du fait d'être employables. Et c'est dû évidemment à certains régimes politiques hein, où il n'y a plus de médiation entre la masse et puis le pouvoir séparé de la masse. Mais le pire que dénonce Sartre ici, c'est qu'il y a une demande en fait d'une partie des populations d'être cet homme général. Et là, c'est ce qu'il y a derrière ça, c'est toute l'analyse de l'aliénation par des techniques de propagande et des techniques de publicité, l'aliénation des individus qui se mettent à avoir envie de ressembler à tout le monde, qui se mettent à avoir envie d'être juste comme tous les autres, de faire comme tous les autres, d'apparaître comme tous les autres. Et ça, on va le retrouver dans une séance prochaine, une analyse de ce type-là d'aliénation et comment, en fait, le moi a envie d'être autre. Et en même temps, se croit s'individualiser en se faisant autre. Hein, on croit, par exemple, avoir se démarquer, se singulariser en adoptant des vêtements qui, en fait, sont juste ceux qui sont à la dernière mode. Donc, évidemment, qui sont entièrement dictés par autrui. Bon, bref, ça aussi, ça va revenir dans des analyses plus précises. Ces trois dangers qui menacent sont des formes d'oppression nouvelles. Donc, il faut étudier ces oppressions. Il faut les comprendre pour pouvoir les subvertir. L'homme peut être aussi bien aliéné par l'abstraction et l'universalité que par une catégorie concrète d'oppresseurs. Ceux-ci, les oppresseurs concrets, faisaient la médiation entre l'abstraction et l'opprimé. Effectivement, le capitalisme du XIXe siècle permettait de voir précisément qui étaient les oppresseurs. Hein, c'était une classe bien définie, on pouvait les viser directement. Alors que, donc, ils étaient une médiation entre cette espèce d'abstraction qui est l'oppression ou le capitalisme. On voyait qui étaient les intermédiaires, ceux qui faisaient et actualisaient cette oppression. Maintenant, on ne le voit plus. Elle est partout, l'oppression. Elle est partout et elle est aussi chez les opprimés, c'est-à-dire eux-mêmes sont des vecteurs de leur propre oppression, comme on le verra.
L'universalité, dans quel sens, là ?
Je pense qu'ici, il parle aussi bien de l'universalité économique, c'est-à-dire un système qui se généralise, donc qui devient de plus en plus diffus partout, disséminé dans tout. Donc c'est cette universalité-là des relations marchandes, des relations de type capitaliste. Et je pense que c'est aussi l'universalité politique, c'est-à-dire le fait que le régime politique qui accompagne cette libéralisation capitaliste est aussi désormais sans médiation, est aussi quelque chose qui, au fond, s'impose de plus en plus partout, sans qu'il soit vraiment à nouveau incarné, ou si tu veux, ces incarnations dans des individus, dans une classe particulière. Elle est insignifiante. Je veux dire, on voit bien qu'on en met un, on en met l'autre, ça revient exactement au même. C'est, en fait, ce qui compte, c'est la structure abstraite et universelle. Ce n'est pas les individus concrets.
L'universalité accolée à l'abstraction. En
fait. Oui, tout à fait. Absolument. Oui. Mais quand même, au sens de la généralisation d'un système qui est réel, hein, qui le sent déjà dans cette période, dans les années 40.
Peut-être oui. Avoir dans la deuxième partie, mais pour rebondir sur ce que dit Daniel, la bureaucratie, est-ce que c'est ça est-ce que c'est un lien entre l'universalité et la bureaucratie?
C'est lié, parce que la bureaucratie, elle est toujours à considérer chez ces auteurs-là, elle est toujours à considérer non pas seulement dans le sens de Courteline, c'est-à-dire bon, le petit employé bureaucratique extrêmement rigide et limité, c'est pas tellement dans ce sens-là, c'est beaucoup plus dans le sens de une organisation étatique qui régit en fait tous les secteurs de la vie et qui est comme une gigantesque toile d'araignée à laquelle il n'est pas possible d'échapper en fait, qui régit tout, qui est partout. Et donc elle est à la fois politique et économique, les deux vont ensemble. Donc c'est ça, hein, cette bureaucratie. Et ça devient effectivement une sorte de système sans auteur, dans la mesure où, encore une fois, les personnes qui sont les fonctionnaires ou qui sont les décideurs sont interchangeables. Qu'on mette les uns ou les autres, ça revient au même. En fait, la structure demeure. Donc c'est ça, cette bureaucratie. Cette extension et cette intensification du contrôle partout, d'un seul et même contrôle, en fin de compte, partout. Bon, je trouve que c'est intéressant qu'il soit préoccupé à cette époque déjà par ça, ce qui nous préoccupe encore. Et peut-être ce serait intéressant de voir si on a un peu avancé ou pas dans la possibilité de s'en délivrer. Donc, il dit à présent, oppression par l'abstrait sans médiation. Donc, est-ce qu'on peut refaire des médiations, par exemple? Mais si on refaisait des médiations, sans doute qu'on en arriverait à ne plus supporter l'abstraction telle qu'elle est. Elle ne tient que parce qu'il n'y a pas de médiation. Bon, ça, c'était pour... je m'arrête là pour ce qu'on peut tirer, disons, pour notre propos des cahiers pour une morale. Et alors, je vous avais annoncé aussi quelques mots sur vérité et existence. Donc, ce petit traité que Sartre n'a pas publié à l'époque. Et dans lequel il fait, je vais vous épargner tout ça, mais il fait vraiment le point sur la conception de la liberté chez Hegel et chez Heidegger, qui sont bien différentes l'une de l'autre, mais je ne vais pas approfondir ce point-là. Mais juste, de nouveau, signaler quelques petites choses qui sont en relation avec la critique de la raison dialectique. Bon, d'abord, comme on avait commencé à en discuter, la vérité, dit Sartre, est toujours partielle et toujours susceptible d'être vérifiée davantage. Donc toute vérité qu'on énonce, toute connaissance qu'on estime vraie, elle est toujours ouverte à une vérification et à une correction, à être confirmée ou infirmée, etc. Donc toute vérité est partielle, sauf, dit-il, certaines qui sont devenues tellement évidentes qu'on les considère comme éternelles. Et bon, c'est vrai qu'on peut penser à des vérités mathématiques, par exemple, qui n'ont plus besoin d'être vérifiées. Elles peuvent encore être complétées. Hein, donc, de la même manière qu'il dit, par exemple, la géométrie d'Euclide, elle n'est pas invalidée par les géométries postérieures, mais elle est complétée, on en ajoute. Donc, on pourra toujours encore ajouter à cette vérité sans la considérer désormais comme fausse. Donc, la vérité est toujours en train de devenir, hein, de se modifier, d'augmenter, etc., ou de se corriger. Ça n'empêche pas d'être vrai. Hein. Donc, le vrai n'est pas nécessairement le absolu et le totalement vrai une fois pour toutes. Alors, il pense qu'il y a un choix de la connaissance ou de l'ignorance. C'est un choix, c'est un projet, parce que c'est une anticipation de son propre futur. Donc, si je décide de connaître ou si je décide de rester ignorant, ça révèle en fait comment je me projette dans mon avenir. Est-ce que je me projette comme quelqu'un qui va connaître ou comme quelqu'un qui va rester ignorant? Il dit que l'ignorance volontaire, le choix de l'ignorance, révèle souvent une peur ou bien de l'en-soi, ou bien du pour-soi, ou bien de la relation entre les deux. Alors, bon, ça, ce sont ces termes propres dans l'être et le néant, mais c'est très instructif. Bon, une peur de l'en-soi, l'en-soi, c'est quoi? C'est le monde indépendant de nous, le monde dans lequel on est jeté, dans lequel on est obligé de vivre, et ce monde... Une fois qu'on le connaît, si on essaye de le connaître réellement, on se rend compte qu'il est hostile. Il est hostile par rapport à nous, c'est-à-dire il est dur. Ce monde, il faut se battre pour y vivre, et pas seulement nous. Tout ce qui vit doit se battre pour vivre dans ce monde. Doit par exemple tuer d'autres vivants pour continuer à sa propre vie. Donc c'est un monde dur. Alors on peut peut-être choisir de s'évader dans une autre conception du monde pour ne pas devoir affronter cette réalité-là. Peur de pour soi, c'est peur de son propre fondement, de son propre être, qui est la liberté. Donc, par peur de la liberté, on peut refuser d'investiguer la connaissance de soi ou directement la rabattre sur quelque chose de rassurant. Je ne suis pas responsable, je suis déterminée et donc je peux rester tranquille. Donc, c'est peur de la vérité sur le pour-soi. Et peur de la relation entre les deux, parce qu'une fois qu'on étudie bien les deux, on se rend compte qu'il y a une dépendance non réciproque, c'est-à-dire nous. Comme pour soi, nous sommes dépendants de l'en-soi, mais lui, non, il n'est pas dépendant de nous. Le monde, l'univers, ça lui est complètement indifférent que nous existions ou pas, nous, les consciences. Tandis que nous, les consciences, on ne peut pas vivre sans lui. On se rend compte de notre dépendance par rapport à l'en-soi. Et donc, on peut avoir peur aussi de cette réalité, et donc on peut se réfugier dans des mythologies ou d'autres pensées qui sont justificatives, qui nous justifient en tant qu'ayant une valeur, etc., et dépassant éventuellement les autres objets de l'univers. Donc voilà une attitude par rapport au désir de vérité. Et l'opinion, justement, l'opinion par rapport à La connaissance, c'est quoi? C'est aussi jugé de manière très négative par Sartre, c'est un refus de la vérifiabilité, l'opinion. C'est un refus, donc, de dire qu'il y a la possibilité d'une vérité en se contentant simplement de quelque chose qui a été entendu sans chercher à le justifier. Donc, on répète quelque chose d'entendu sans se soucier de la source, sans se soucier d'où ça vient, de est-ce que ça a été établi avec une méthode rigoureuse, sûre, est-ce que c'est sûr ou pas. Donc, l'opinion, c'est se contenter de ce qui est dit, de ce qui est en vigueur ou si éventuellement dans un certain milieu, sans chercher sa vérifiabilité. Donc, c'est vraiment un refus de la vérité aussi. L'opinion, c'est un refus, c'est une ennemie de la vérité. Et la vérité, on peut aussi y distinguer deux manières de la vivre, de l'intégrer. Il y a une manière abstraite d'atteindre une vérité, c'est quand elle est communiquée par quelqu'un d'autre. Bah, typiquement, quand on apprend, hein, quand on apprend toute une série de matières, et que certes, on peut apprendre aussi comment elles ont été trouvées, hein, comment ce savoir a été construit, mais il n'empêche que il reste abstrait dans la mesure où on ne l'éprouve pas soi-même. Et donc l'opposé, la vérité concrète, la manière concrète d'appréhender une vérité, c'est d'en avoir une expérience directe. Donc c'est rien ne vaut évidemment d'expérimenter par soi-même ce qu'on a appris, ce qui nous est communiqué. Évidemment, ce n'est pas toujours possible, évidemment. Et alors, un dernier point important, c'est la distinction que Sartre fait entre l'historialité et l'historicité. Donc, historialité, alors il reprend ce néologisme de Heidegger, mais dans un autre sens que lui. Historialité ou bien historicité. L'historialité, c'est ce mouvement actif. C'est un mouvement actif de la part d'un individu conscient qui s'inscrit justement dans l'histoire. S'historialiser, c'est se faire un agent dans l'histoire. C'est devenir soi-même un agent dans l'histoire. Donc c'est actif. Tandis que l'historicité, c'est le fait de faire partie d'une certaine époque de l'histoire et d'être marqué par cette époque. Donc c'est plutôt quelque chose de passif, c'est plutôt quelque chose qu'on subit. On subit notre historicité parce que on est effectivement là à un certain moment de l'histoire et on est aussi soi-même une certaine expression de l'histoire. Donc ça, c'est l'historicité. Et donc je vous propose de lire le texte 4 qui porte sur cette distinction. Le début est un peu technique dans le vocabulaire, mais ça nous permet de nous ancrer dans le vocabulaire hegélien qui revient tout le temps, évidemment, avec Sartre. Donc, l'absolu concret et le dévoilement de la vérité à l'absolu sujet. Donc, je m'arrête sur cette notion de absolu sujet, absolu concret. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est au sens de non-relatif. L'absolu, c'est au sens du non-relatif. Et donc, là, pourquoi est-ce qu'il dit qu'il y a un absolu sujet? Ça vient de Hegel, hein. Mais c'est dire le sujet en tant que la conscience pour elle-même est le tout. C'est-à-dire au sens où la conscience, elle est ce qui découvre le monde. Elle est ce à qui arrive tout. C'est ce à qui arrivent toutes les expériences. Et donc la conscience pour elle-même, elle est un absolu. Ah, donc chaque individu conscient pour lui-même est un absolu. Puisque s'il disparaît, tout disparaît avec lui, pour lui. Et tout ce qui lui est donné, lui est toujours donné à lui. Tout ce qui est vrai du monde, et tout ce qui est faux d'ailleurs, c'est toujours lui qui le juge, qui l'évalue, qui le reçoit, qui le pense, qui le désapprouve, etc. Donc c'est en ça qu'il est un absolu. C'est le cogito cartésien, hein. C'est la même chose que quand Descartes dit « la seule chose certaine, c'est que je pense, hein, c'est que j'ai des idées, c'est qu'il m'arrive des choses. » Et ça, c'est un absolu, au sens où il n'y a pas de condition à cela. Ça ne dépend pas d'autre chose. C'est ce qui est le plus certain et qui ne dépend. Alors après, on va retrouver évidemment des dépendances. Après, si on analyse comment est possible justement que je pense, on va trouver des dépendances, comme je disais tout à l'heure, par rapport à l'en soi. Bon. Mais il n'en restera pas moins que ce qui sera toujours indubitable, c'est ce que j'ai dans la conscience. Donc c'est en ça que l'absolu, on peut dire que c'est le sujet, hein, est un absolu. Et alors l'absolu concret, c'est au contraire l'absolu comme objet. Quand on est arrivé à un tel savoir de l'objet, avec une telle concrétude et en même temps en ayant passé par toutes les formes de vérifiabilité, etc., de méthodes qu'on puisse connaître. Donc quand on est arrivé à cet absolu objet, selon Hegel, il n'y a plus d'opposition entre le sujet et l'objet, c'est-à-dire il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus d'incommunicabilité entre le sujet et l'objet. Donc l'objet devient aussi certain que le sujet. C'est le but de la connaissance chez Hegel. C'est ça qui est, en fait, la fin de l'histoire de l'esprit. C'est pas du tout que l'esprit va s'arrêter, qu'il n'a plus rien à faire. La fin de l'histoire de l'esprit, c'est-à-dire hein, de toute la pensée humaine qu'on peut développer, c'est que on soit aussi certain de ce à quoi on a affaire, de ce qui est en face de nous, de ce qu'on expérimente, que de nous-mêmes. C'est le but de tout ce développement du savoir. Bon, donc, je vous ai dit, c'est un peu technique, mais comme ça, on se familiarise avec ces notions. L'absolu concret et le dévoilement de la vérité à l'absolu sujet sont dans l'historialisation. Donc, ça veut dire se développe dans des actions de sujet. Et ce sont des choses qui s'établissent dans un mouvement actif de la part de sujets qui s'historialisent. Donc aussi, qui travaillent avec leur époque. Qui travaillent en fonction de leur époque, en s'inscrivant dans leur époque et dans les moyens de leur époque. C'est pour ça aussi qu'il y a une justification de l'accumulation du savoir ou de l'amélioration des savoirs dans la perspective hegélienne, parce qu'à toutes les époques, on ne pouvait pas tout penser. Ce n'était pas possible de tout penser à toutes les époques. Il y avait besoin de certains développements pour pouvoir penser certaines choses. Donc, ça, c'est dans l'historialisation. L'erreur est d'y voir un épiphénomène de l'historicité. Donc, un épiphénomène de l'historicité, ce serait de dire l'erreur est de penser que la construction du savoir, elle est automatique, l'historicité, c'est-à-dire elle est passive. C'est qu'on est simplement passivement le reflet de son époque. Autrement dit, hein, pour connaître la vérité, il faut être très actif, ça ne viendra pas tout seul. C'est de nouveau un argument pour la liberté et contre le déterminisme, hein, mais appliqué à la connaissance. La connaissance, elle ne vient pas toute seule simplement parce qu'il y a historicité, hein, simplement parce que certaines structures se développent matériellement. Donc, c'est de nouveau ce même type de plaidoyer. Au lieu que l'historicité est le sens conféré à mon projet en tant qu'il n'est plus du tout vécu ni concret, mais pur en soi abstrait. Donc, l'historicité, quand moi j'ai agi en m'historialisant, hein, en m'inscrivant dans mon époque, en faisant ce que je pouvais dans mon époque, le résultat de cela, il devient historique, il tombe dans l'historicité dès le moment où ce n'est plus le projet tel que moi je l'ai voulu et fait, mais ça devient ce qui est reçu par d'autres ou par l'époque, justement. Ce qui en reste pour les autres ou pour les générations futures. Et Sartre donne un exemple dans un autre passage, c'est celui des personnes qui sont obligées d'émigrer, qui sont obligées de s'exiler. Et il dit le sens que chacune de ces personnes a donné à son exil ou à son immigration lui appartient en propre et n'appartient qu'à lui. Il est singulier, pour chaque personne c'est un sens différent. Mais une fois que c'est récupéré par les statistiques ou par un mouvement global ou par une vision globale, hein, des chiffres de l'émigration par exemple, à ce moment-là, ça devient un en soi abstrait qui ne correspond plus finalement à aucune des réalités vécues par les individus qui ont dû le faire. Vous voyez de nouveau ce même souci de dire ça ne sert à rien de voir des grands mouvements d'ensemble si on n'a pas compris ce qui est vécu par chaque conscience dans ces mouvements d'ensemble. Toujours la même préoccupation. Ainsi doit-on se faire historique contre l'histoire mystifiante, c'est-à-dire s'historialiser contre l'historicité. Et en quoi est-ce que l'histoire peut être mystifiante? C'est en tant que justement elle manque ou elle ne se préoccupe pas de ce qui est les finalités, de ce qui a été la finalité de toutes les actions qui ont eu lieu dans l'histoire, mais elle ne voit que ces grandes structures abstraites. Voilà, je termine là pour cette pour ces ouvrages préparatoires. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir là-dessus ou sur ce qu'on a fait la semaine dernière? Sinon, je passe donc à l'objet principal de, du cours, qui est la première partie, pour commencer, de la critique de la raison dialectique. Alors, cette première partie, qui s'appelle « Question de méthode », elle est un peu à part parce que Sartre l'avait d'abord publiée en tant que telle, comme un tout, et sur commande d'une revue polonaise qui voulait faire le point sur les mouvements de pensée en France. Et donc, il avait demandé à Sartre s'il voulait bien écrire un article sur où en était l'existentialisme. Et Sartre n'avait pas envie de parler simplement de l'existentialisme, il avait envie de penser à ce qu'il préoccupait sur le moment. Et donc, il a fait tout de suite un rapport existentialisme et marxisme. Et c'est comme ça qu'il a publié une première version de cette partie. Ensuite, cette version a été republiée en français dans les temps modernes, donc dans sa revue, dans deux numéros de sa revue. Et puis finalement, elle a été reprise en 1960 lors de la publication de l'ouvrage lui-même. Alors, il y a eu des petits remaniements, il a rajouté des notes, bon, mais pas énormément, en fait. En gros, il a gardé la question qu'il avait faite. Mais bon, il n'y a pas énormément d'années entre les deux. Hein. La première publication, c'est en 1956. Dans les temps modernes, c'est en 1957. Et puis l'ouvrage, c'est en 1960. Oui, en premier lieu, donc faisant le point sur l'existentialisme et le marxisme, il présente de manière extrêmement humble l'apport de l'existentialisme. Il dit que l'existentialisme, en fait, il ne faut pas l'appeler une philosophie, il faut juste l'appeler une idéologie. Alors, il le prend dans un sens non péjoratif, l'idéologie, c'est simplement une pensée, un ensemble d'idées, mais qui n'est pas assez créatif, assez important dans l'histoire pour qu'on l'appelle une philosophie. Il dit les dernières philosophies, c'était Hegel et Marx. Et depuis lors, il n'y en a plus. Donc, il se déprécie vraiment pour commencer. Et il dit, au contraire, le marxisme, je vais le considérer comme la philosophie de notre temps, qui, pour le moment, est indépassable, parce que les conditions qui l'ont motivé, qui l'ont généré, ne sont pas dépassées. Et ces conditions, c'est que l'ensemble de l'humanité n'a pas encore la liberté de penser à autre chose qu'à sa simple survie. Et tant que ce sera ça, tant que l'humanité, tant que une partie de l'humanité sera à ce point dépendante encore de ces simples conditions matérielles de survie, on ne pourra pas penser à une autre philosophie que la philosophie marxiste, ce sera celle-là qui dominera l'époque. Mais néanmoins, dit-il, l'existentialisme aura un rôle à jouer à l'intérieur de cette philosophie, comme une sorte d'enclave, hein, comme quelque chose qui va lui apporter tout de même un petit plus théorique. Il insiste sur le fait qu'il s'agit bien d'une recherche philosophique qu'il veut mener sur l'histoire, mais qu'il utilisera d'autres disciplines qui étudient l'homme et l'histoire comme auxiliaires, comme des disciplines auxiliaires, donc comme des instruments qui vont lui apporter des faits, des descriptions, des démonstrations locales sur certains points. Donc il va se nourrir de toutes ces disciplines qu'on appelle les sciences humaines. Sociologie, anthropologie, psychanalyse et histoire, bien sûr, mais tout en se défiant de ce qu'ils estiment être leur principal défaut, qui est qu'elles hypostasient leur catégorie. Hypostasier, ça veut dire considérer comme si ça existait en soi, hein, séparé des personnes, des pensées qui les portent. Donc il y a une tendance des sciences humaines à considérer leur catégorie comme ayant plus d'existence, en fin de compte, une existence plus importante, plus réelle que les individus qui les portent. Et donc c'est comme si, par exemple, les structures de la parenté, ou la névrose, ou les classes sociales, en quelque sorte, étaient les réalités qui venaient s'inscrire dans les individus. Alors qu'il faut considérer tout à fait autrement qu'il y a une série d'individus qui développe certaines particularités qu'ensuite on va appeler d'un nom général qu'on dira névrose ou autre. Ou c'est parce qu'il y a des individus qui développent qui sont dans une certaine situation professionnelle, financière, etc., qu'on va dire, bon, ben, ceux-là, on les réunira sous le nom de telle catégorie sociologique. Mais ces catégories-là, elles n'ont pas de réalité. Il est très nominaliste, hein, Sartre. Ce sont juste des noms commodes pour désigner, c'est tout. Et donc, encore une fois, les sciences humaines, elles s'éloignent de la vérité concrète quand elles ne parlent que de ces généralités-là. Et il pense que il y a le même défaut d'utiliser des catégories abstraites dans certaines tendances de la théorie marxiste. Et ça, c'est le premier texte. Je vous propose de lire le premier texte d'aujourd'hui. Il faut simplement rejeter l'apriorisme. L'apriorisme, donc le fait d'avoir ces catégories a priori, hein, et ensuite seulement de les appliquer à ces objets concrets. L'examen sans préjugés de l'objet historique pourra seul, en chaque cas, déterminer si l'action ou l'œuvre, donc on étudie l'action de quelqu'un, hein, ou l'action d'un groupe dans un événement, ou l'œuvre d'un auteur, parce qu'il pense toujours à ses écrivains, si l'action ou l'œuvre reflète les mobiles suprastructurels de groupes ou d'individus formés par certains conditionnements de base, ou si l'on ne peut les expliquer qu'en se référant immédiatement aux contradictions économiques et aux conflits d'intérêts matériels. Donc ici, c'est de nouveau la même question. Est-ce que vraiment tout se réduira à l'économique et à partir simplement de la matérialité économique, on pourra déployer une explication de absolument tous les actes de toutes les personnes, ou est-ce qu'on devra passer par toute une série de médiations ou d'autres types de mobiles qu'on appellera suprastructurels? Le marxisme concret doit approfondir les hommes réels et non les dissoudre dans un bain d'acide sulfurique. On perd le réel à totaliser trop vite et à transformer sans preuve la signification en intention, le résultat en objectif réellement visé. La signification d'un acte ou d'un geste, c'est ce qu'on en tire après, c'est le résultat tel qu'il est vu par les autres. Et cette signification apparente, on fait comme si c'était l'intention de son auteur. Donc trop vite, on dit, puisque c'est ça qui en a résulté, c'est que c'est ça qui était visé par l'auteur. Mais on sait très bien, au contraire, qu'il y a une telle transformation, aliénation, déformation de la volonté de tout acte, qu'on ne peut pas directement remonter de ce qui est visible, de ce qui est signifiant, de ce qui est signe pour l'extérieur. On ne peut pas directement remonter à l'intériorité, à la finalité visée. Et il y a un exemple qui est donné ailleurs par Sartre à propos de Flaubert, c'est que Flaubert a été compris et admiré par ses contemporains en tant qu'écrivain réaliste. Or, Flaubert détestait le réalisme. Il ne voulait absolument pas être un écrivain réaliste. Donc, d'où vient ce malentendu que lui, il voulait écrire autre chose que du réalisme, et il a été immédiatement reçu comme un écrivain réaliste? C'est que justement, il offrait une apparence, peut-être son œuvre offrait une apparence de réalisme, et du coup, on a catalogué, c'est qu'il avait cette intention. Et pas du tout. Donc en fait, ça lui a échappé. Il voulait faire autre chose, ça lui a échappé. Ou, si vous voulez, la manière dont il écrivait ne pouvait pas être comprise à l'époque autrement que comme ça, parce qu'il y avait une attente de réalisme. Bon, donc là, vous voyez le détournement de l'intention, et donc, pas conclure trop vite. Penser, pour la plupart des marxistes actuels, c'est prétendre totaliser, et sous ce prétexte, remplacer la particularité par un universel. Donc c'est passé tout de suite à l'universel. C'est prétendre nous ramener au concret et nous présenter sous ce titre des déterminations fondamentales, mais abstraites. En fait, évidemment, c'est parce qu'il y a une ambiguïté du concret. On peut dire que le marxisme ramène au concret en ce sens qu'il étudie la matérialité des conditions. Il étudie les conditions concrètes économiques, oui. Mais s'il le fait d'une manière tout à fait générale, c'est-à-dire en disant tel ensemble, tel groupe social, par exemple les paysans, nécessairement ils agissent comme ça. Tel groupe, les prolétaires, nécessairement ils agissent comme ça, et ainsi de suite. En fait, ce n'est pas du concret. On étudie peut-être bien des actions sur de la matière concrète, mais on l'étudie de manière abstraite, parce que, justement, sans passer par le vécu, sans passer par ce qui est la vie réelle de ces personnes dans ces groupes. Hegel, du moins, laissait subsister le particulier en tant que particularité dépassée. C'est ça la force de Hegel, c'est ça son génie, c'est ça le génie de sa dialectique, c'est de montrer comment on doit effectivement décrire par des généralités, parce qu'il est impossible d'énumérer ce que fait chaque individu et de n'en faire qu'une somme, c'est impossible. Donc forcément, on doit le dépasser par quelque chose de plus général. Mais la méthode est bonne seulement si le particulier est conservé dans la synthèse qu'on fait. à titre de dépassement, c'est-à-dire à titre de, bon, il n'est qu'un élément, il n'est qu'un moment de cette généralité, il n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais il n'empêche qu'on le conserve. Le marxiste croirait perdre son temps s'il tentait, par exemple, de comprendre une pensée bourgeoise dans son originalité, donc la pensée d'un individu bourgeois dans l'originalité individuelle de cet individu. À ses yeux, ce qui importe seulement, c'est de montrer qu'elle est un mode de l'idéalisme, c'est-à-dire hein, simplement de montrer que, bah, puisque c'est un bourgeois, forcément, il est idéaliste. Donc, la contradiction capitaliste, elle est bien le cadre dans lequel on doit étudier les événements historiques, mais elle ne peut pas suffire, il faut qu'on aille aussi considérer l'événement et l'expliquer dans sa réalité concrète. Et donc, il faut arriver à synthétiser la multiplicité de tous les éléments qui entrent en interaction dans un événement. Donc, j'enchaîne directement sur le deuxième texte. Par la raison que chaque comportement d'un groupe dévoilé dépasse le comportement du groupe adverse, hein, donc on est bien dans le cadre de contradictions, de conflits, on est dans un cadre d'analyse marxiste. Chaque comportement se modifie par tactique en fonction de celui-ci. Donc, vous voyez déjà, hein, chacun dépasse l'autre, puisque c'est comme dans la tactique militaire, hein, c'est décrit aussi par les théoriciens de la guerre. J'agis évidemment en prévoyant les coups de l'adversaire et je réagis immédiatement aux coups de l'adversaire. Donc, j'essaye chaque fois de déjouer les coups de l'adversaire. L'événement, donc en raison de cette interaction, l'événement dans sa pleine réalité concrète est l'unité organisée d'une pluralité d'oppositions qui se dépassent réciproquement. Perpétuellement dépassée par l'initiative de tous et de chacun, il surgit précisément de ces dépassements mêmes comme une double organisation unifiée dont le sens est de réaliser dans l'unité la destruction de chacun de ses termes par l'autre. Donc c'est, vous voyez là en fait une description assez précise de ce mouvement dialectique hein, où on a des termes en opposition. Chacun vise à supprimer l'autre et en visant à supprimer l'autre, en fait, il modifie les deux. Et c'est en modifiant les deux, donc à la fois l'autre et soi-même. Pourquoi aussi soi-même ? Parce qu'il s'ajuste, hein, il s'ajuste à ce qui est exigé par la situation. Du coup, les deux créent une nouvelle réalité et c'est comme ça qu'on a véritablement dépassement dans une étape qui n'était pas entièrement prévisible par les termes en puissance, hein, pas entièrement déductible par les termes en puissance. C'est donc l'ambiguïté même de l'événement. Pourquoi l'ambiguïté ? Parce que l'événement, il n'a pas le même sens pour chacun des protagonistes. L'événement est très ambigu pour les uns. C'est une difficulté, pour les autres, c'est une avancée. Les uns ont l'espoir, les autres perdent l'espoir, etc. Donc, c'est l'ambiguïté même de l'événement qui lui confère souvent son efficacité historique. Donc, dans l'incertitude où on est hein, de la teneur de l'événement, on va justement le faire évoluer, on va justement se changer et faire évoluer les choses. Donc, c'est ça qui fait que l'histoire avance. Cela suffit pour que nous affirmions sa spécificité, donc de l'événement, car nous ne voulons ni le considérer comme la simple signification irréelle des heurts et de chocs moléculaires, donc comme une interaction de force physique, ni comme leur résultante spécifique, ni comme un symbole schématique de mouvement plus profond, donc c'est pas symbole schématique, donc c'est-à-dire comme si tout conflit était un reflet du conflit principal qui est l'antagonisme de classe, hein, donc selon une certaine analyse qui serait simplifiée. Mais comme l'unité mouvante et provisoire de groupes antagonistes qui les modifient dans la mesure même où ils la transforment. Comme tel, il a ses caractères singuliers, donc l'événement toujours, hein, il a ses caractères singuliers, sa date, sa vitesse, ses structures, etc. Il faut aller plus loin et considérer en chaque cas le rôle de l'individu dans l'événement historique. Car ce rôle n'est pas défini une fois pour toutes, c'est la structure des groupes considérés qui le détermine en chaque circonstance. Or, justement, à propos de ces individus dans l'histoire, on a longtemps considéré principalement dans l'histoire le rôle des personnages particulièrement influents, hein, les grands hommes. Et on a fait pendant longtemps l'histoire des grands hommes comme si eux seuls étaient déterminants pour l'avancée, l'évolution des sociétés et pour l'arrivée des événements. Et puis, il y a eu une réaction opposée qui a été de ne plus considérer les individus, mais de considérer uniquement les structures, les mouvements d'ensemble. Et donc, on a un peu, justement, évacué l'individu. Au point que Sartre, là, prend un exemple d'un excès qu'il trouve chez un théoricien russe qui s'appelle Plekhanov. Qui est l'un des principaux introducteurs du marxisme en Russie tsariste. Il est mort juste un peu après la révolution de 17. Et donc Plekhanov, étudiant le déroulement du capitalisme, estime que la figure de Napoléon, enfin la personne de Napoléon avec ses caractéristiques propres, n'aurait rien changé, enfin si ça n'avait pas été lui mais un autre, ça n'aurait rien changé à l'aboutissement final de cette lutte au début du 19e siècle, à savoir les forces économiques en présence, ce serait d'un côté la classe bourgeoise possédante et de l'autre côté le prolétariat opprimé. Donc Napoléon ou pas, ça n'aurait rien changé à cet aboutissement final essentiel qui est le rapport économique. Et Sartre lui dit, c'est peut-être vrai que de toute façon, l'histoire économique aurait tourné de cette façon-là, mais est-ce qu'on peut considérer comme négligeable et comme détail insignifiant tout ce qui a accompagné Napoléon comme propre, à savoir la saignée sanglante de ses guerres partout en Europe, le fait qu'il a répandu bien contre son gré, mais enfin bon, l'idéologie révolutionnaire ailleurs en Europe aussi, jusqu'en Russie, ou encore la Restauration, le fait de la Restauration, avec tous ses effets réactionnaires quant à justement la propriété foncière, quant à le retour de la religion, etc. Donc en fait, toutes ces choses-là, est-ce qu'on peut vraiment les considérer comme négligeables, alors que c'est ça justement qui s'inscrit dans la vie concrète des individus? En fait, c'est ça qui affecte les individus. Ce genre de choses. Donc, encore une fois, on doit tenir les deux ensemble, sinon on passe à côté de la compréhension de l'histoire. Et alors, Sartre va présenter finalement sa propre méthode qui va être, dit-il, progressive, régressive. Donc voilà une précision de ce qui va être sa méthode en histoire pour tenir tout ça ensemble. Cette méthode progressive régressive, elle garde encore une fois donc comme cadre les catégories qui ont été apportées par le marxisme, à savoir que les moteurs de l'histoire sont la rareté et donc la rareté, les problèmes économiques et les conflits, mais il y ajoute, ou plus exactement, il corrige le marxisme en ce sens que l'objet réel de l'étude historique, ça va être les hommes singuliers dans leur rapport avec leur champ social. Et donc, je lis le troisième texte. Je lis beaucoup de textes aujourd'hui parce que c'est très difficile d'utiliser d'autres termes que les siens. C'est tellement précis et propre que résumer avec d'autres termes, ça ferait perdre beaucoup, je pense, de sa richesse. Donc, l'objet qui va nous permettre de donner une rationalité à l'histoire, de comprendre l'histoire comme intelligible, c'est l'individu aliéné, réifié, mystifié, tel que l'on fait la division du travail et l'exploitation, mais luttant contre l'aliénation au moyen d'instruments faussés. Donc, il lutte, oui, ces instruments aussi sont faussés, puisque eux aussi sont déterminés par ces conditions de division du travail, par ses récits mystifiants, etc. Mais bon, en dépit de tout, gagnant patiemment du terrain. Car la totalisation dialectique doit envelopper les actes, les passions, le travail et le besoin, donc ce qui est éprouvé, vécu, autant que les catégories économiques. Elle doit à la fois replacer l'agent ou l'événement dans l'ensemble historique, le définir par rapport à l'orientation du devenir et déterminer exactement le sens du présent en tant que tel. C'est-à-dire le présent vécu, en fait, encore une fois, tel qu'il est vécu. La méthode marxiste est progressive parce qu'elle est le résultat chez Marx de longues analyses. Aujourd'hui, la progression synthétique est dangereuse. Donc déjà, hein, je vous fais remarquer, la méthode progressive, elle est synthétique. Donc la partie progressive de cette méthode, c'est une synthèse. Mais cette synthèse, elle n'est bonne que si elle est précédée d'une analyse, comme il nous dit. Hein, Marx pouvait appliquer une synthèse ou le côté progressif, l'étape progressive de son enquête, parce qu'il avait d'abord appliqué l'analyse. Et donc cette analyse, ou partie régressive, hein, évidemment, de la méthode, consiste à remonter à toutes ces conditions qui sont déterminantes pour les événements historiques, donc ultimement aux conditions matérielles et économiques, mais toutes les autres aussi, hein. Donc l'analyse ou la régression, c'est bien énumérer, bien distinguer, bien détailler et rendre compte de toutes ces conditions. Et puis alors, de tout cela, on va pouvoir refaire une synthèse et donc passer à l'étape progressive, mais qui sera, mais cette synthèse, elle ne va pas se faire n'importe comment. Elle doit se faire nécessairement par les individus concrets. C'est là que la concrétude de l'individu est intéressante, est importante. Parce que, comme on avait vu la semaine dernière déjà à propos des événements qui avaient pu causer ou expliquer la Commune, hein, si vous vous souvenez, Sartre disait déjà, ce ne sont pas ces éléments séparés les uns des autres, comme la faim, la victoire prussienne, la possibilité d'une société meilleure qui était déjà évoquée. Ce ne sont pas ces éléments disparates qui ont pu causer la Commune, parce qu'il fallait bien quelqu'un pour les réunir. Il fallait quelqu'un pour les penser ensemble et pour agir à partir de là. Et ça, donc forcément, ce sont des individus. Donc il reprend la même idée ici. Donc je poursuis le texte. Aujourd'hui, la progression synthétique est dangereuse. Pourquoi ? Parce que les marxistes paresseux s'en servent pour constituer le réel a priori. C'est-à-dire en ne passant plus, évidemment, par d'abord la présentation de tout le concret et sa réunion dans des personnes concrètes. Les politiques, pour prouver que ce qui s'est passé devait se passer ainsi. Donc on reconnaît effectivement le discours justificateur. On justifie l'état présent puisque, en fait, il résulte nécessairement de ce qui a précédé, donc ça devait être ainsi. Ils ne peuvent rien découvrir par cette méthode de pure exposition. La preuve, c'est qu'ils savent d'avance ce qu'ils doivent trouver. Notre méthode, au contraire, est heuristique. Alors, heuristique, il vaudrait mieux l'écrire avec un H, puisque, en fait, ça vient du verbe grec heurisko. Heurisko, c'est trouver, hein, c'est trouver, c'est de là que vient Euré, le fameux Eureka d'Archimède. C'est trouver, et la méthode heuristique, elle consiste à faire des allers-retours entre des hypothèses et des vérifications. Donc on cherche à trouver quelque chose de précis, mais en tâtonnant, hein, donc en essayant, donc par essai et erreur, hein, c'est une méthode par essai et erreur, et donc c'est bien ça qu'il veut récupérer, c'est cette idée de avancer par hypothèse, vérifier, et donc c'est une manière de toujours faire se répondre ce qu'on sait abstraitement, généralement, et ce qu'on sait concrètement par les particularités. Notre méthode est heuristique, elle nous apprend du neuf parce qu'elle est régressive et progressive tout à la fois. Son premier soin est, comme celui du marxiste, de replacer l'homme dans son cadre. Nous demandons à l'histoire générale de nous restituer les structures de la société contemporaine, ses conflits, ses contradictions profondes et le mouvement d'ensemble que celle-ci détermine. Ainsi, nous avons au départ une connaissance totalisante du moment considéré, totalisante en gardons toujours à l'esprit, totalisation toujours inachevée, bien sûr, hein, toujours à compléter, mais peu importe, elle est quand même totalisante puisqu'on essaye de voir un ensemble. Mais par rapport à l'objet de notre étude, cette connaissance reste abstraite. Elle commence avec la production matérielle de la vie immédiate et s'achève avec la société civile, l'État et l'idéologie. Vous voyez là des catégories donc, qui vont du plus infrastructurel au plus suprastructurel, mais qui sont quand même des catégories qui restent abstraites. Or, à l'intérieur de ce mouvement, notre objet figure déjà, Et il est conditionné par ces facteurs, les individus, les groupes, les événements, sont conditionnés par ces facteurs, dans la mesure même où il les conditionne. Alors pourquoi dans la mesure où il les conditionne ? Mais parce que comment est-ce que l'individu ou les groupes d'individus conditionnent à leur tour les facteurs de la situation ? Mais c'est parce qu'il les incarne, c'est parce qu'il les incarne et qu'il les modifie. En fait, c'est parce que, puisque ce sont eux qui sont... qui sont les sujets de l'État, qui sont les travailleurs des grands ensembles économiques. Ce sont eux qui, par leurs actions, modifient constamment. Donc, soit entretiennent, soit s'opposent, soit transforment, soit se rebellent contre ces entités. Donc, ils les conditionnent à leur tour. Ainsi, son action est déjà inscrite dans la totalité considérée, mais elle demeure pour nous implicite et abstraite. Elle demeure implicite et abstraite tant que on sait cela en général, on sait que les individus sont agissants, mais on ne sait pas comment, ni chacun, comment il va le faire singulièrement. D'un autre côté, nous avons une certaine connaissance fragmentaire de notre objet, et ici, par notre objet, il entend cet objet précis qu'on cherche particulièrement à étudier. Il a toujours Flaubert en tête. Hein. Il essaye toujours d'étudier son Flaubert dans l'ensemble de l'histoire du XIXe siècle. Ben, ça peut être aussi un événement, par exemple la Révolution française. Hein. Notre objet, si notre objet est la Révolution française, qui prend souvent en exemple, ben, c'est la même chose. Nous en avons une connaissance fragmentaire à côté de toutes les conditions qui ont précédé et par lesquelles on a l'habitude de l'expliquer. Par exemple, nous connaissons déjà la biographie de Robespierre en tant qu'elle est une détermination de la temporalité, c'est-à-dire une succession de faits bien établis. Donc on a là les faits qui ont été établis par notre auxiliaire qui est l'histoire. Ces faits paraissent concrets parce qu'ils sont connus avec détail, hein, ce qui est vrai, hein, on a une méthode rigoureuse et on a pu vérifier que c'était bien ça qui s'était passé, mais il leur manque la réalité, puisque nous ne pouvons encore les rattacher au mouvement totalisateur. Et donc, vous voyez la nuance que met le mot « réalité » dans tout ça. La réalité, c'est vraiment l'ancrage dans le reste du tissu historique. L'ancrage dans le champ social. Donc, en fait, un personnage historique dont on connaîtrait la biographie, mais sans connaître très bien tous les tenants et aboutissants de son époque, si on se dit « il a fait ceci, il a fait cela », mais qu'on ne voit pas exactement dans quelle situation il a fait ceci, en interaction avec qui et avec quoi, en réaction à quel détail d'événement. Si on n'a pas fait cela, en fait, c'est une connaissance abstraite. À la limite, ça pourrait être un personnage de fiction. C'est pour ça qu'il manque de réalité. Ça pourrait être un personnage de fiction. Si on veut que ce soit ce personnage réel, dans l'histoire, il faut montrer comment, en fait, tout ce qu'il a fait était en relation avec la situation présente. C'est ça son ancrage. Oui ?
Là, c'est un nouvel élément. Ce n'est pas la question de savoir quelle était son intentionnalité.
Exactement. C'est pas seulement son intentionnalité, exactement. C'était pas seulement c'est le fait qu'il a développé ses actions en vue d'une certaine finalité. C'est beaucoup plus que ça. C'est aussi le fait que ses actes, en fait, sont incompréhensibles d'une manière vraiment profonde si on ne les replace pas dans la situation exacte où il était exactement à tel moment. Si ne fût-ce qu'un tout petit, si on introduisait ne fût-ce qu'une toute petite différence dans une succession d'événements historiques, les personnes qui vivaient à ce moment-là auraient agi un petit peu différemment aussi. Donc en fait, on ne peut pleinement comprendre l'action d'une personne que si on comprend pleinement dans quelle situation elle était.
Si on discute, on a bien évidemment le contexte, la relation entre contexte et l'acteur.
Oui, c'est ça. C'est qu'effectivement, on ne peut jamais séparer l'acteur de son contexte, mais vraiment d'une manière très, très fine et très détaillée. Oui ?
Si on doit tout comprendre, c'est pas possible. Donc, on ne comprend rien.
Alors ça, c'est tout à fait vrai. C'est très compliqué. Chaque fois, on a l'impression qu'on voudrait faire cette objection à Sartre, de lui dire, mais comment est-ce qu'on peut inclure tout ? Il y a tellement alors à dire, il y a tellement de détails, il y a tellement de... Ben, c'est pour ça qu'il fait des volumes comme ça. Hein. Flaubert, c'est je ne sais pas combien de milliers de pages, parce qu'effectivement, il veut passer tout en revue, il ne veut rien oublier, aucun élément. Et il pense que c'est ça qui vaut la peine, en fait. Et en fin de compte, on pourrait se dire, ben oui, au fond, tant qu'à faire, si on veut développer des connaissances, autant qu'on prenne le temps de leur donner toute l'ampleur qui est nécessaire. Et on n'a pas besoin de faire un certain... Comment dire ? On peut dire que une vie est consacrée à un certain type d'œuvre et que toute la vie prend le sens du développement de cette œuvre parce que justement, on veut aller le plus loin possible. Alors encore une fois, tout est dans l'idée de... On totalise le plus possible, ça veut dire on intègre le plus possible d'éléments, mais on sait que ce sera nécessairement incomplet. On sait que ce sera une totalité inachevée. Et d'autres pourront continuer après nous. C'est aussi ça l'idée, c'est qu'il n'y a pas un individu tout seul qui fait le récit d'un événement. D'autres viendront compléter, d'autres viendront ajouter ce qui manque, enfin, ou corriger, etc. Donc c'est vrai, oui, on peut viser une exhaustivité tout en sachant qu'elle est inatteignable. Cette objectivité non signifiante contient en elle, sans qu'on puisse l'y saisir, pourquoi non signifiante ? Parce que c'est l'objectivité d'une description de la vie de Robespierre qui n'est pas encore signifiante parce qu'elle n'illustre pas encore son époque. Enfin, elle n'est pas encore révélatrice de toute son époque puisqu'on l'a faite séparément. Donc cette objectivité non signifiante contient en elle, sans qu'on puisse l'y saisir, l'époque entière où elle est apparue, de la même façon que l'époque reconstituée par l'historien contient cette objectivité, contient le rôle de Robespierre, bien sûr. Et pourtant, nos deux connaissances abstraites tombent l'une en dehors de l'autre. Hein, donc on a le plus souvent, en fait, une étude des événements ou une étude biographique et pas les deux qui sont croisés. On sait que le marxiste contemporain s'arrête ici. Il prétend découvrir l'objet, donc son individu ou son événement, dans le processus historique et le processus historique dans l'objet. Il a raison, hein, de prétendre découvrir ça. Mais en fait, il substitue à l'un et à l'autre un ensemble de considérations abstraites qui se réfèrent immédiatement au principe. Le mot « immédiatement » est important. Il va directement chercher ces catégories habituelles, ces catégories théoriques. Et les applique directement à l'objet qu'il cherche. Donc il va dire Flaubert, c'est un petit bourgeois idéaliste, il veut devenir écrivain à la manière des bourgeois, et donc il va faire une écriture bourgeoise. Et puis il va décrire sa classe. Mais bon, appliquer des catégories générales de ce type-là ne permet évidemment de rien comprendre à l'action vécue par Flaubert. La méthode existentialiste, au contraire, veut rester heuristique. Elle n'aura d'autre moyen que le va-et-vient. Elle déterminera progressivement la biographie, par exemple, hein, si on parle d'un personnage, en approfondissant l'époque, et l'époque en approfondissant la biographie. Et c'est effectivement ce qu'il fait, hein, dans l'idiot de la famille, c'est un va-et-vient constant entre la personne de Flaubert, sa vie familiale, sa vie relationnelle, et l'époque, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, à quoi il réagit, pourquoi il... Bon. Quelles sont toutes les personnes qui l'influencent, tout ça. Loin de chercher sur le champ à intégrer l'une et l'autre, elle les maintiendra séparées jusqu'à ce que l'enveloppement réciproque se fasse de lui-même et mette un terme provisoire à la recherche. Provisoire, parce que, encore une fois, d'autres peut-être continueront. Mais l'enveloppement, c'est un terme important qui va revenir aussi dans la suite de la critique, c'est l'enveloppement réciproque, donc c'est en fait un peu un synonyme de dépassement. Au lieu de dire je dépasse les événements ou les finalités des autres ou les actions des autres, on peut dire je les enveloppe parce que je les retiens dans ma réaction. Hein, ma réaction, elle inclut la leur puisque c'est à ça que je réagis, puisque c'est ça qui l'explique. Donc il y a des enveloppements progressifs. Donc vous voyez bien que la partie régressive de la méthode de la recherche, c'est d'aller trouver les conditions qui existaient, qui rendent compte d'une situation présente. Et puis donc c'est une sorte d'analyse de la situation. Et la partie progressive alors, c'est reconstituer ce qui dans le vécu concret fait l'unité de toutes ces conditions à un certain moment et devant un certain événement. Et notamment, on va déterminer pour un personnage historique le champ de ses possibles, le champ de ses possibles, en fonction des instruments qui étaient à sa disposition. Et parmi ces instruments, il y a tous les instruments intellectuels. Donc de nouveau, hein, il n'y a pas que les conditions économiques, il y a tous les instruments intellectuels, donc les idées qui circulaient, et jusqu'aux significations du langage, aux significations du mot. Des mots. Sartre décrit assez longuement l'exemple de l'idée qu'on se faisait de la nature au XVIIIe siècle et la manière dont ça a influencé la Révolution française, hein, l'idée de nature. Donc oui, ce sont des instruments intellectuels par rapport auxquels les gens qui sont plongés dans une époque n'ont pas nécessairement une distance comme nous, on peut avoir deux siècles après, bien entendu. Ils baignent dedans, ils baignent dans les idées, dans les significations. Ils sont obligés, évidemment, d'utiliser le langage qu'ils ont à leur disposition, qui aussi oriente, d'une certaine manière, leurs pensées et leurs actions. Donc, c'est en ça qu'on peut dire que la pensée, elle est, d'une certaine manière, matérielle. Certainement, elle est une action, mais elle est aussi, d'une certaine manière, matérielle, puisque elle est un matériau qu'on utilise et que chaque individu, alors, va utiliser à sa manière. Donc, chacun va singulariser son usage des instruments communs. Donc voilà aussi encore une manière aussi de montrer comment il y a interaction entre la créativité individuelle, puisque chacun singularise son usage, et puis tout ce qui est ambiant et qui influence ou qui limite les possibilités, hein, le champ des possibles de chaque individu. Et il ajoute que, alors il fait une digression sur l'être humain, mais ce n'est pas une digression pour nous, puisqu'on cherche quand même philosophiquement cette anthropologie de l'histoire. Donc ce n'est pas une digression de s'interroger sur une structure de l'être humain. Mais enfin, il fait toute une digression sur la nature signifiante de l'être humain. Pourquoi est-ce que l'être humain est un être signifiant? Et signifiant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un créateur de signes. L'être humain, c'est un créateur de signes. Le langage, c'est un ensemble de signes. Mais ce n'est pas les seuls signes. Il y a aussi toutes les conventions de signes, les pictogrammes, tous ces signes-là qui sont d'usage courant. Et aussi, d'ailleurs, certains gestes et comportements qui sont signifiants par rapport aux autres humains. Et en fait, s'il est créateur de signes, dit Sartre, c'est précisément parce qu'il est toujours en projet vers l'avenir. C'est parce qu'il a besoin de dépasser le présent pour désigner des choses qui ne sont pas encore là, qui n'existent pas encore, ou simplement qui sont absentes. Donc en fait, toute utilisation d'un signe permet le dépassement d'une situation présente, permet d'aller au-delà de la situation présente en désignant des choses qui ne sont pas présentes. Alors soit qui ne sont pas présentes dans l'espace, parce qu'elles ne sont pas ici, elles sont absentes, soit qui ne sont pas présentes dans le temps, parce qu'elles ne sont pas encore, parce qu'elles sont futures. Donc, au moment où l'être humain a eu cette conscience de l'absence et du futur, conjointement, probablement, il a inventé des signes pour désigner ce qu'il ne pouvait plus désigner concrètement, qui n'était pas là pour le désigner concrètement. Donc, c'est ça, l'invention des signes. Donc, c'est évidemment, d'un point de vue anthropologique, tout à fait important. C'est crucial comme étape. Et il enchaîne sur le fait que ces comportements signifiants permettent l'intercompréhension entre les gens. En fait, on en était arrivé la semaine dernière à cette difficulté de communication entre les consciences, puisque aucune ne peut se mettre exactement à la place de l'autre. Mais en fait, on interprète beaucoup, on comprend beaucoup de ce que les autres expriment par des gestes signifiants, donc indépendamment du langage, et par des comportements qui nous indiquent leurs intentions. Et Sartre donne l'exemple d'une scène dans une pièce où se trouvent deux personnes qui sont en train de discuter et qui sont passionnées par le sujet de leur discussion. Et puis, à un certain moment, il y en a un qui se lève, qui se déplace vers la fenêtre, qui déplace le bureau pour arriver à l'ouverture de la fenêtre, qui ouvre la fenêtre. Et puis, il dit, qu'est-ce qu'il faisait chaud ici? Il faisait étouffant, on avait besoin d'air. Et en fait, l'autre comprend tout son comportement avant même que son interlocuteur lui ait dit « j'ai trop chaud, je vais aller ouvrir la fenêtre ». Il le comprend tout de suite, il comprend qu'il va se diriger vers la fenêtre, il comprend que l'autre sait comment on utilise le mécanisme d'ouverture. Et donc, en fait, si même l'un des deux n'avait pas éprouvé la même sensation de chaleur et d'étouffement, il aurait tout de suite compris que son voisin l'éprouve par ses signes hein, de, par ses gestes, par ses actes, de cette réaction, en fait. Et cette réaction, évidemment, elle est dirigée vers une finalité. C'est pas la chaleur qui pousse, comme dans une réaction chimique, une personne à se déplacer pour ouvrir la fenêtre. Et si la chaleur toute seule, elle fait juste qu'on chauffe, quoi, c'est tout, elle ne fait rien d'autre. Ce qui fait évidemment qu'on se déplace et qu'on va ouvrir la fenêtre, c'est la finalité. C'est qu'on sait qu'en ouvrant, notre futur sera meilleur parce qu'on aura de l'air. Donc là, de nouveau, l'occasion de rappeler la structure de finalité et ce qui permet la compréhension. Et c'est là qu'il insiste sur le fait que ce qui nous permet de comprendre les autres, les gestes des autres, c'est d'atteindre, de saisir leur finalité. Si je vois, dit aussi Sartre, si je vois un homme qui est en train de travailler dans la rue un peu loin et que je me demande ce qu'il fait, en fait, il faut que je pense à quel peut être son but là pour que je comprenne ses gestes. Hein, il s'échine, par exemple, sur un levier, je comprends que son but, c'est de déceler une plaque d'égout, etc. Donc, je le comprends par ses finalités. Et cette compréhension par finalité est très importante parce qu'elle passe aussi au-dessus des différentes cultures. C'est ce qui nous permet aussi de comprendre des hommes de cultures extrêmement éloignées de la nôtre. C'est que je peux toujours retrouver chez eux ce qui fait des structures anthropologiques, des structures ontologiques de l'être humain, des structures ontologiques de l'être humain, donc qui sont vraiment dans l'être de tous les humains, quelle que soit leur culture, et qui sont, ben, pour le récapituler, premièrement le besoin, alors il cite le besoin en premier lieu, mais c'est quelque chose qui est un peu récent dans sa pensée, de donner autant d'importance au besoin. Hein, c'est évidemment l'apport matérialiste, le besoin. La transcendance, c'est-à-dire le fait que la conscience est toujours dirigée vers l'extérieur, elle a toujours des objets extérieurs, et elle est toujours en dépassement de soi-même. Donc aussi la finalité, c'est-à-dire la projection vers le futur, hein, qui sont aussi des structures ontologiques, tous les êtres humains ont ça. Et puis l'historicité, et en ce qui concerne l'historicité, justement, alors ils discutent les sociétés sans histoire, et dans un premier temps, après, dans une séance prochaine, on verra son dialogue avec Lévi-Strauss, notamment. Mais dans un premier temps, il dit que même les sociétés qui ont l'air de ne pas avoir d'histoire, elles ont du moins l'historicité parce qu'elles ont la possibilité d'une histoire. Et cette histoire, si elle ne surgit pas de l'intérieur de la société, parce qu'il y a toute une série de dispositifs qui empêchent le changement, hein, c'est des dispositifs très clairs, hein, qui empêchent le changement, il n'empêche qu'elles ont cette possibilité qui peut surgir alors d'un événement extérieur. Une rencontre avec un autre peuple ou un événement naturel qui les oblige à modifier leurs pratiques, etc. Donc, de toute façon, elles sont historisables, en somme. Et ça, ce sont des structures anthropologiques, ce sont des structures de l'humain. Toute cette compréhension par les fins des humains, elle s'oppose, d'après Sartre, à une certaine tendance dans les sciences humaines à refuser d'interpréter les humains qu'elles étudient par ces structures-là, mais en en introduisant d'autres. Donc il va y avoir une petite allusion au structuralisme dans les sciences humaines. C'est le texte 4 que je vous lis. La mystification suprême du positivisme. Alors pourquoi du positivisme ? Donc le positivisme en sciences naturelles, mais aussi en sciences humaines, consiste à vouloir considérer objectivement et par des méthodes strictement objectives un certain objet étudié. Donc que ce soit des pratiques humaines ou des éléments de la nature, on pense que les mêmes méthodes peuvent s'appliquer et qu'on peut atteindre cette objectivité donc, dans laquelle celui qui étudie le chercheur n'intervient pas, hein, mais à distance son objet et peut le circonscrire en faisant une simple description phénoménale, hein, simplement en le regardant de l'extérieur. Ou en trouvant, par l'intermédiaire donc, d'un travail sur ses apparences empiriques, sur ses apparences extérieures, trouver des structures internes non visibles, comme en physique par exemple, on dégage des lois à partir de dispositifs expérimentaux. Donc dégager des lois, c'est-à-dire dégager en quelque sorte l'essence ou la vérité du phénomène, mais toujours par une méthode empirique, mathématique, logique, c'est-à-dire strictement objective. Et c'est là, vu qu'il y a eu une transposition de ces méthodes-là dans les sciences humaines, il y a aussi un positivisme dans les sciences humaines. Donc, la mystification suprême du positivisme, c'est qu'il prétend aborder l'expérience sociale sans a priori, hein, donc objectivement, alors qu'il a décidé au départ de nier une de ses structures fondamentales et de la remplacer par son contraire. Une de ces structures fondamentales, bon, ben, c'est celle qu'on vient de voir, hein, c'est la structure de l'humain comme dépassement. Il était légitime que les sciences de la nature se délivrassent de l'anthropomorphisme qui consiste à prêter aux objets inanimés des propriétés humaines. Bon, ça, on avait fait depuis longtemps, hein, c'était le passage de la mythologie où les éléments étaient décrits de manière mythique, généalogique, au passage à une science, disons, rigoureuse et non anthropomorphe. Mais il est parfaitement absurde d'introduire par analogie le mépris de l'anthropomorphisme dans l'anthropologie. Donc, pourquoi ne pas traiter des sujets humains en tant qu'humains? Que peut-on faire de plus exact, de plus rigoureux, puisqu'on cherche la rigueur dans ces sciences, quand on étudie l'homme, que de lui reconnaître des propriétés humaines? La simple inspection du champ social aurait dû faire découvrir que le rapport aux fins, donc l'action par finalité, est une structure permanente des entreprises humaines, et que c'est sur ce rapport que les hommes réels apprécient les actions, les institutions ou les établissements économiques. Donc c'est en tant que rapport de finalité qu'on interprète ou qu'on décrit ou qu'on essaie de comprendre les structures et les institutions humaines. Une structure qui sert de soubassement au marxisme et qui est autre que ces structures ontologiques de l'humain, c'est le fait de considérer le capitalisme comme un système autonomisé qui agit en dépit, donc à l'insu ou indépendant de la volonté de ceux qui le constituent, des éléments qui le constituent. Et donc c'est de nouveau en fait le même effet de donner l'impression que les structures sont agissantes et pas les humains. Donc le structuralisme disant que les hommes sont agis par les structures, hein, en fait. Donc Sartre fait de nouveau ce parallèle entre, d'une part, les sciences humaines qui ne sont pas nécessairement marxistes, et d'autre part, dans le marxisme, cette idée aussi d'attribuer l'action aux structures. Et il dit, oui, c'est vrai que le système capitaliste s'est autonomisé. Hein, et c'est vrai qu'il s'impose comme une contrainte y compris aux capitalistes. Pourquoi ? Mais parce qu'entre eux, ils sont pris par des liens de concurrence tels qu'ils sont obligés de faire certaines choses. Enfin, si du moins ils veulent se maintenir à leur poste. Bon, ce qui est un peu une évidence. Mais Sartre indique qu'il n'empêche qu'il faut toujours maintenir comme médiation concrète le fait que l'application de toutes ces structures dans le réel, passe néanmoins par leur projet. Donc ces capitalistes, bien sûr, sont agis en ce sens qu'ils sont obligés de suivre un certain mouvement, ils sont obligés de vouloir de la croissance, de vouloir des rassemblements en groupes de plus en plus gros, monopolistiques, etc. Ils sont obligés de faire ça parce que sinon, ils ne se maintiennent pas, ils sont absorbés, ils sont annihilés. Okay. Mais il n'empêche que leurs actions concrètes passent par leur projet. C'est toujours qu'eux-mêmes se projettent dans ce qu'ils seront et se projettent dans le fait d'être du côté des vainqueurs et pas des vaincus, et du côté de ceux qui grandissent et pas qui sont annihilés. Donc là aussi, on est obligé de passer par leur projet et de dire, par rapport à leur projet, ils restent libres de leur choix. Ils restent libres de leur choix. Donc ils continuent à choisir constamment d'être ce type d'acteur-là et pas d'autres types d'acteurs. Et on connaît quelques rares exemples de rupture, mais il n'y en a pas beaucoup. De rupture totale hein, par rapport à son statut et de se dire, bon, justement, mon projet change, je cesse d'être emporté par la structure. Autrement dit, pour le dire, je vais bientôt terminer, pour le dire en une formule, entre le conditionnement objectif qui est réel. Hein. Il y a bien un conditionnement objectif de tous les individus par l'ensemble des institutions, des matérialités, des conditions. Entre ce conditionnement objectif et l'objectivation de l'individu, c'est-à-dire l'action de l'individu hein, par projection et librement librement agissant sur son tissu matériel et social. Bon, entre ces deux objectivités, si on veut, il y a la médiation de la subjectivité. Hein, c'est ça qu'il faut dire. Il y a la médiation de la subjectivité, c'est-à-dire on ne passe jamais directement d'un en soi à un autre en soi. Les conditions matérielles à une action inscrite dans la matière. Le travail d'un ouvrier sur une machine, etc. Donc on ne passe pas d'un en soi à un autre en soi directement. Toujours, il y a la médiation de la subjectivité, c'est-à-dire un moment de reprise possible, hein, un moment où il est possible de dire stop, où il est possible de dire je ne veux plus, je fais autrement. Ou de dire d'accord, je continue à le faire dans le même sens, mais à ma manière, etc. Alors là, il y a toute une gamme de nuances possibles. Donc c'est important cette idée de médiation de nouveau. Hein, c'est... Et en conclusion alors de cette partie qui s'appelle « Question de méthode » pour la terminer, Sartre conclut par le fait que donc, l'existentialisme, c'est l'anthropologie elle-même en tant qu'elle cherche son propre fondement, en tant qu'elle se donne son propre fondement. Donc, c'est parce que seul l'existentialisme, en fait, c'est une manière de dire, hein, seul l'existentialisme et ni les sciences humaines, ni le marxisme comme philosophie n'arrivent à ce fondement-là, à ce fondement ultime qui est la compréhension de l'être de l'humain. Et si on n'a pas compris cet être de l'humain, on va passer à côté de ces fameuses médiations et donc on va manquer la compréhension de l'histoire. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même un certain retournement par rapport à l'humilité du tout début, hein, où je vous avais dit « ce n'est qu'une petite idéologie, bon, les grandes philosophies là, sont derrière nous ». Et puis maintenant, où il dit « c'est la philosophie existentielle, celle qui est développée dans l'être et le néant, qui seule permet de donner un fondement à tout le reste des études. Ce fondement, c'est ces structures ontologiques de l'humain, parce qu'il a montré comment tout était dépendant de ça. » Et donc, la semaine prochaine, ce qu'on verra, c'est comment les structures marxistes, proprement marxistes, telles que l'exploitation, la réification, l'aliénation, peuvent être étudiées dans leur domaine propre, qui est l'organisation du travail, mais avec une méthode existentialiste. Donc on poursuit hein, de nouveau la conciliation ou la collaboration entre les deux méthodes. Je crois qu'on a beaucoup de matières qu'on peut discuter et qu'on peut approfondir.
C'est peut-être une question très vaste, on va sûrement revoir. Et tu as utilisé à plusieurs reprises le terme médiation, qui file presque cette séance. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ?
C'est un terme hegélien, bien sûr, hein, et c'est un terme qu'on va retrouver tout le temps parce que justement, il est au cœur de la dialectique. La dialectique hegélienne, elle cherche toujours des médiations entre le singulier et l'universel, ou entre le concret et l'abstrait, entre le sujet et l'objet. Et le problème, c'est que on sait bien qu'il n'y a pas de rapport direct et certain. Il n'y a pas un rapport direct entre l'individuel et l'universel, ou du moins c'est un abus de le considérer dans les matières humaines. À la limite, on pourrait le considérer en physique et encore. Donc, il faut trouver les intermédiaires. Les médiations, c'est les intermédiaires. Donc, les groupes intermédiaires, les sous-ensembles intermédiaires qui permettent de passer progressivement de l'individuel au général. Par exemple, ou les médiations par lesquelles le sujet, la conscience qui cherche à connaître, parvient à ses objets. Alors, il y a toute une série de médiations qui sont autant d'étapes, en fait, de prise de conscience par la conscience de ce qu'elle peut faire, de comment elle peut se rapporter à ses objets. Ce sont toutes des médiations, des étapes intermédiaires. Qu'est-ce que j'avais dit comme autre exemple ? Oui, entre le concret et l'abstrait, bon, c'est un peu la même chose. Et en fait, c'est... Si, encore une fois, si on veut comprendre, si on veut vraiment comprendre un événement, on doit aussi mettre toute une série de médiations entre non seulement les individus, mais aussi les intentions des individus, et puis tous les moyens qui vont être mis en œuvre pour réaliser cette intention. Là aussi, ce sont des médiations. Donc, par quelle médiation est-ce que je vais accomplir, est-ce que je vais essayer d'atteindre ma finalité ? Les moyens sont aussi des médiations. Parce que ils n'interviennent pas brut dans le processus, comme on pourrait dire que des forces interviennent de manière brute dans un processus physique. Ils interviennent repris par la subjectivité. Donc c'est en ça qu'ils sont médiatisés. Si pour atteindre mon but, j'ai besoin de faire un certain type de discours, je vais faire usage à ma manière des moyens linguistiques qui sont à ma disposition. Donc c'est ça la médiation. Il y a toutes sortes d'exemples de médiation. Et toujours le dépassement se fait par une multiplicité d'étapes de cette façon-là. C'est difficile de comprendre quelque chose en philosophie contemporaine sans passer par Hegel. C'est vrai que il a une influence considérable parce que c'est une philosophie d'une profondeur et d'une intelligence. C'est devenu incontournable.
Je trouve assez impressionnant cette idée de l'histoire, et du fait qu'une toute petite modification de l'histoire en fait, affecterait le comportement de l'individu, du sujet, et donc de concilier ça avec l'idée d'historialité, c'est-à-dire qu'en même temps le sujet peut influencer l'histoire. C'est difficile de se convaincre qu'on peut influencer une histoire dans n'importe quelle toute petite modification nous modifierait notre propre action, notre propre manière d'agir en fait, pas seulement l'impact de notre action.
Oui. Et c'est vrai que, bon, évidemment qu'il y a des actes plus signifiants et plus influents que d'autres, ça, c'est indiscutable. Mais en fait, tout acte modifie d'une certaine manière l'histoire à cause de ses répercussions. À cause de ses répercussions, mais que souvent même le sujet lui-même ignore. C'est-à-dire, quelque chose qu'on a dit à quelqu'un ou qu'on a écrit, peut-être entendu par quelqu'un qui n'était pas le destinataire particulièrement visé, qui va en faire quelque chose de tout à fait nouveau, qu'il n'aurait pas fait s'il n'avait pas lu ou entendu cela. Donc tout a des répercussions qui se multiplient en fait, qui se multiplient et qui augmentent en importance mais au moment où ça échappe complètement à son sujet d'origine. Et on ne sait pas à quel point ça se multiplie et ça fait écho et ça rencontre d'autres actions, etc. Donc en fait, oui, tout ce qu'on fait modifie d'une certaine manière l'histoire.
C'est la théorie du chaos.
Oui, et ça ressemble à la théorie du chaos, tout à fait. Oui.
Par contre, j'ai une question. Vous avez fait un parallèle avec les mathématiques au début de votre exposé. En fait, en poursuivant, est-ce que finalement Sartre n'a pas voulu axiomatiser son raisonnement ? C'est-à-dire poser des axiomes, comme on pose des axiomes en mathématiques, en disant, voilà, ça, on l'accepte, c'est comme ça, on n'a plus besoin de le démontrer. On l'accepte comme une vérité. Et est-ce que, en philosophie, on arrive à dégager... Est-ce que des philosophes ont voulu axiomatiser leur raisonnement ? Et est-ce que ça a été accepté par les autres aussi ?
Je pense pas, parce que les axiomes, ce sont des vérités non devenues, hein, pour reprendre cette distinction. Ce sont des vérités qui n'ont pas été démontrées et qui sont même en général des indémontrables. Alors que pour Sartre, toute vérité doit être démontrée. Donc justement, elle peut jamais être axiomatique.
Donc il y a aucune possibilité d'axiomatiser la philosophie.
Je pense pas, non. Je pense pas. Alors on peut se demander si l'éthique de Spinoza n'est pas un peu une sorte d'axiomatique, puisque au départ il y a toute une série de définitions qui sont données et d'où sont déduites une série de choses, mais
non, mais c'est peut-être en contradiction justement avec ce qu'il dit quand il parle de sa démarche qui est heuristique. Par définition, oui. Sa démarche heuristique admet que, enfin, il y a une perfectibilité inévitable et qui pour toujours des vérités ou du fait établi. Donc, autrement dit, en tant que tel, une démarche heuristique admet, par définition, enfin, ne se soucie pas qu'il y ait des axiomes ou pas, non ?
Il ne faut pas confondre axiome et hypothèse, parce que, de fait, la démarche heuristique, elle fonctionne par hypothèse et vérification. Les hypothèses ne sont pas des axiomes, parce que les hypothèses, justement, on cherche à les démontrer ou au contraire à les infirmer. Alors que les axiomes, on les considère comme des vérités qui sont indémontrables. Pourquoi ? Parce qu'elles sont ultimes. parce qu'on doit on devrait se reposer sur elle-même pour les démontrer, donc c'est pas possible. C'est vraiment les éléments les plus simples et les plus ultimes, quoi, qui sont les axiomes. Donc non, il n'y a pas l'équivalent en philosophie. Je ne vois pas comment il y aurait l'équivalent en philosophie. Et justement, ce qui est très intéressant, je reviens de nouveau à Hegel, c'est que ce dont part... Hegel, il dit que, quels que soient les éléments dont on part, parce qu'il faut bien commencer une recherche quelque part, quels que soient les éléments dont on part, on devra, in fine, revenir à leur démonstration. Donc de toute façon, tout sera démontré par le reste. Donc il y aura bien une circularité du savoir, au sens où que vous preniez n'importe quel élément, il pourra être démontré par le reste. Donc il y aura une réciprocité, hein, de démonstrabilité. Non, en général, non, il n'y a pas d'axiome en philosophie. Enfin, je ne vois pas d'exemple. Mais bon, peut-être qu'on en trouverait. Mais juste, j'avais parlé de vérités qui sont désormais considérées comme éternelles, c'est-à-dire qu'elles ne vont plus évoluer, on considère qu'elles ne vont plus évoluer, elles ne vont plus être mises en question. Et c'est vrai que c'est plutôt dans le domaine mathématique qu'on peut dire, bon, ben là, c'est fixé une fois pour toutes. Pourquoi ? Ben, parce que les objets dont on parle ne vont pas changer aussi. Et puis parce qu'une fois qu'on a démontré quelque chose, on peut démontrer avec certitude et on peut démontrer qu'il n'y a pas de réfutation possible, etc. Tout ça peut être démontré à l'intérieur d'un système. C'est parce que c'est un système bien circonscrit avec des objets qui ne sont pas à l'épreuve du réel, ou pas vraiment, qui n'ont pas besoin de l'épreuve du réel. Après, parfois, on les retrouve dans le réel à l'endroit où on ne les attendait pas, mais il n'empêche qu'ils n'ont pas besoin de l'épreuve du réel. Ils sont en dehors de ça. Donc, c'est pour ça que c'est quand même un cas assez exceptionnel.
Il suffit en mathématiques d'être un peu différent pour déduire un autre système, géométrie euclidienne, non euclidienne. Enfin, il suffit de dire, on décrète, c'est peut-être fort comme terme, on décrète qu'il y a plusieurs droites et qui sont parallèles à une seule et qui passent par un point, et ça en fait toute une autre branche de la mathématique qui est, et paradoxalement, qui a des répercussions des fois utiles dans le réel, c'est ça qui est.
Oui,
voilà.
De géométrie.
Moi, j'ai envie de dire, enfin, ce que j'ai compris des sciences sociales, aussi bien la sociologie que l'histoire, l'anthropologie, elle veut justement généraliser les problèmes, les comportements individuels. C'est son ADN, quoi. Justement, elle veut théoriser ou ces sciences-là veulent généraliser des comportements individuels. Et on dirait que Sartre, il accepte pas cette catégorisation, parce que ça le gêne de parler de généralité, mettons, la classe ouvrière, les instituteurs, les paysans. Bon. Donc j'ai l'impression que c'est comme si les sciences humaines ne l'avaient pas traversé, enfin, ne l'avait pas impacté, et qu'il n'avait pas compris qu'il y avait une science qui, justement, cherche à faire des généralités de comportements individuels. Il reste... C'est pour ça qu'il est très intéressé par le roman aussi, je pense. Parce qu'effectivement, le roman, c'est l'histoire de chacun. Mais... on n'est pas, c'est pas le roman, le matérialisme historique ou le marxisme. Enfin, est-ce que je me fais un peu comprendre ou...
Oui, tu te fais très bien comprendre. oui, attention, Sartre ne met pas en question cette recherche de généralité, puisqu'il le fait lui-même aussi. Donc, il ne met pas du tout en question, il ne trouve pas du tout que c'est un mauvais but d'une science, au contraire. Simplement, il estime qu'il y a certaines méthodes qui ne le font pas bien. Et une méthode qui lui semble... Alors, ça ne veut pas dire non plus qu'elles ont tout faux, mais ça veut dire qu'il leur manque quelque chose qu'éventuellement, elles peuvent aller chercher ailleurs. Et c'est pour ça qu'il critique certaines méthodes des sciences humaines. Alors, d'abord, le structuralisme, parce que le structuralisme évacue totalement le sujet. Mais il faut dire que c'est pas toutes les sciences humaines qui fonctionnent de manière structurelle, hein, mais il y a eu, et d'ailleurs ça dépend des époques aussi, mais il y a eu une certaine époque où ça dominait, cette idée que les structures fonctionnaient sans sujet. Et ça, évidemment, c'est à l'opposé total de sa philosophie, donc il montre que c'est pas possible, que c'est pas tenable. Ou sinon, le problème aussi, comme j'ai dit, c'était de considérer que finalement les objets, c'était les objets de la sociologie, etc., c'était les généralités, les groupes, et qu'on pouvait comprendre quelque chose simplement en décrivant des groupes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on décrit des comportements de groupe par les statistiques, c'est-à-dire par des moyennes. Hein, on fait des moyennes, on dit voilà autant de pourcents de paysans vont voter pour tel parti, etc. Sartre dit, bon, ça peut être une discipline auxiliaire, ça peut nous servir, parce que ça nous intéresse de savoir combien de pourcents des paysans vont voter, etc., pour telle partie. Mais pour lui, c'est un savoir qui est encore très abstrait, parce que lui, il veut comprendre pourquoi chacun de ces paysans va voter ça. Et parce que lui, il a l'idée que c'est pas nécessairement les mêmes motivations pour tous, etc. Mais pourquoi il veut ça? Parce qu'il dit, si on veut changer les choses, parce que son idée, c'est quand même de transformer l'histoire vers quelque chose de mieux. Donc, si on veut changer les choses, ben, il faut comprendre pourquoi c'est comme ça. Comment voulez-vous changer, je continue cet exemple, hein, l'exemple d'un vote, si vous comprenez pas pourquoi les gens votent comme ça. Et donc, pour le savoir, ben, faut leur demander à chacun, c'est quoi votre motivation? Alors, à chacun, encore une fois, bon, on peut prendre un échantillon représentatif, etc. Mais en tout cas, on va faire plutôt une sociologie compréhensive. Mais ça existe, une sociologie compréhensive. Il y a eu des sociologues qui ont défendu ça. Mais c'est plus tellement ce qui est, le plus en vigueur actuellement. Actuellement, on a une sociologie statistique. On a quasiment tout qui est statistique. Et on se contente, en fait, souvent des statistiques. C'est-à-dire, ça, c'est devenu un peu la seule vérité de notre époque, c'est les statistiques. Voilà, une fois qu'on a donné les proportions, on croit qu'on a tout compris. On n'a rien compris, évidemment, avec les proportions.
Notre époque n'est pas celle de ça.
Ben apparemment, oui, déjà. Et il n'y a pas que lui qui dénonce ça déjà à son époque. Hein. Si tu regardes... Weber, Max Weber, par exemple, c'est début du XXe siècle, c'est lui qui voulait faire une sociologie compréhensive. Lui, déjà, il estime que les statistiques cachent, en fait, l'objet important.
C'est plutôt ce qu'on en fait, c'est plutôt le détournement. Enfin,
pas nécessairement. C'est une fausse compréhension.
Une étude statistique dit une certaine réalité. Après, le travers, c'est que justement, après, on l'utilise pour faire dire, enfin, comme je caricature aux chiffres, des choses qui ne sont pas véritablement révélateurs de cette étude statistique en question. Enfin, c'est plutôt ça, non, qu'en tant que tel.
On peut dire ça aussi, mais ce n'est pas ça que Sartre vise. Lui, ce qu'il vise, c'est simplement une illusion de compréhension.
Mais il me semblait que un des meilleurs exemples militerait en faveur de l'idée de Sartre, c'est la fameuse question des sondages. On croit aujourd'hui que le sondage reflète exactement, ou avec un degré d'exactitude pratiquement parfait, ce que les gens pensent. Mais en réalité, on se rend compte qu'il arrive des fois où les meilleurs sondages où les sondages prétendument les plus exacts sont contredits par exemple, un vote réel. Et donc, le vote réel, dans ce que je viens de dire, reflète la volonté réelle des gens qui contredit ce qui était présenté comme étant, quelques jours auparavant, leur opinion.
Oui, bien sûr, il y a toujours le problème de à partir de quelle quantité ce sera représentatif de l'ensemble. Il y a aussi le fait de changer éventuellement d'opinion. Mais ça, OK, tout ça est exact. On va revenir à cette question plus tard parce que Sartre va étudier aussi la manière dont ces statistiques, ces sondages, c'est-à-dire le reflet qu'on donne aux gens de leur propre pensée, les influences, du coup. Et ça, c'est peut-être encore plus important. C'est-à-dire le fait que quand la société, par l'intermédiaire de ses sondages, de ses enquêtes d'opinion ou de ses jeux télévisés, hein, aussi, ça peut être différentes choses, prétend donner un miroir aux personnes pour qu'elles se retrouvent dedans, en fait, ça les modifie. Et donc, ça, c'est, on va revenir à cette question. Oui, Daniel.
Est-ce qu'on peut éclairer la notion de subjectivité aux yeux de Sartre ? C'est individu ?
C'est pas exactement ça. C'est vrai que lui aussi utilise tantôt un terme, tantôt l'autre. La subjectivité, c'est quand on isole la partie agissante, donc la partie de ce qui réalise quelque chose. Donc c'est vraiment le pour soi, quoi. C'est le pour soi, la subjectivité. C'est ce qui pense, ce qui voit, ce qui éprouve, ce qui agit. C'est ça, ça, c'est le côté subjectif et qui est toujours évidemment en rapport avec un objet parce qu'on pense toujours quelque chose, on agit toujours sur quelque chose, vers quelque chose. Donc c'est le versant du jeu, en fait, hein, la subjectivité. Alors, ce n'est pas tout à fait l'individu, parce que l'individu, c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi l'individu en tant qu'objet. C'est aussi c'est l'ensemble quoi, qui est l'individu. Donc, quand on dit subjectivité, c'est vraiment la partie consciente et active de l'individu. La partie de l'individu pour lui-même, et pas pour les autres ou pour ce qui lui est phénoménal, enfin, lui est extérieur.
Pour revenir à l'échange précédent et puis bon, lié à la subjectivité, là, je viens de lire un livre de Jeanne Favré-Saada, qui est une philosophe anthropologue et qui a écrit les mots, la mort, les sorts. Elle le publie en 75 et elle s'est bien fait taper dessus quand même parce que elle a été étudier la sorcellerie dans le bocage. Et elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas avoir de la matière si elle ne s'impliquait pas complètement en ensorcelée ou en ensorceleuse ou dans ses rôles. Et elle raconte bien combien ça a été très mal pris hein, par son... Juste pour dire historiquement, encore en 75, c'est pas simple du tout, quand on est anthropologue, d'être valide d'un point de vue épistémologique et de ses pairs, sur une étude où on est aussi impliqué. Et elle a une petite analyse sur les noms propres qui est assez géniale. Et elle dit que finalement, dans une anthropologie objective, positiviste, ben, on va prendre comme sujet le « on ». L'anthropologue, le scientifique, va surtout pas dire « je », parce qu'il doit disparaître en tant que sujet, mais il reste un « on » qui reste quand même un sujet, parce que ça ne... Voilà. Et l'autre va être le « il ». Et ce « il », comme il disait, elle dit, Benveniste dit que ce « il », il est même pas ça ne devrait même pas être un nom propre, parce qu'au fond, ce « il », c'est pas... On lui enlève sa qualité de sujet. Et je ne veux pas... c'est juste que je viens de le lire, et que ça m'a... C'est drôle comme écho, et que c'est peut-être aussi... Ça rejoint complètement, il me semble, l'existentialisme... que tu nous as ici présenté, où ça va très loin, c'est-à-dire une approche structuraliste qui évacue non seulement le sujet des personnes étudiées, ce ne sont plus des sujets, c'est des îles, c'est des objets, ils sont complètement réifiés, mais même qui masque qu'il y a un sujet réel qui parle. C'est quand même très violent, même politiquement, en fait. Au-delà même de la validité scientifique de la méthode, il y a une violence politique qui me semble s'exercer à ce moment-là.
Oui, alors évidemment, c'est une controverse qui est interne à l'anthropologie, en ce sens que c'est d'abord la question de comment on récolte les faits. Comment on récoltera au mieux les faits ? Est-ce que c'est en essayant de les regarder avec la plus grande objectivité possible, en se disant justement qu'on veut éviter tout ce sens péjoratif du terme subjectif, hein, qui veut dire, oui, mais c'est passé par le filtre de votre interprétation ou de votre personnalité, donc ce n'est pas objectif. Autrement dit, c'est pas la réalité, c'est uniquement ce qui est pour vous en fonction de votre subjectivité. Donc ça, c'est le côté péjoratif hein, qu'on reproche à ce qui n'est pas une méthode strictement objective. Donc, Ça pose un problème pour le recueil des faits, puisqu'on sait très bien, et par les études de plusieurs anthropologues, en fait, on sait très bien qu'il y a des tas de faits qu'on ne récoltera jamais, des récits qu'on n'entendra jamais, si on n'est pas considéré comme suffisamment intégré dans un groupe. C'est évident, ils ne vont pas parler à un étranger, etc. Ça concerne la récolte des faits. Donc ça, c'est interne à cette discipline-là, puisqu'elle veut être descriptive, donc elle veut récolter un maximum de témoignages, etc. Donc pour ça, il faut qu'elle mette au point ses méthodes. Bon, ça, si tu veux, c'est indépendant de la question du rapport entre l'anthropologie et la philosophie, puisque la philosophie, elle prendra le résultat de tout ça. Hein, elle dira, bon, si j'utilise des éléments apportés par l'anthropologie, je lui fais confiance quand même sur ses méthodes, etc. Je ne vais pas m'immiscer dedans. Bon, elle va peut-être un peu vérifier quand même. Mais par contre, là où tu touches autre chose et où tu touches la question philosophique, donc l'anthropologie philosophique, si on pense faire une anthropologie philosophique, alors forcément, on doit étudier l'humain dans ses structures ontologiques. Et donc, on ne peut pas effacer l'individu, puisque l'humain, c'est d'abord pour lui-même un individu. Et donc, si on considère l'humain uniquement, je veux dire de manière interchangeable ou uniquement de manière globale ou comme une moyenne ou comme le commun qui peut exister entre différents humains, voilà, ils font tous comme ça, etc. Il y a un problème si on n'est pas conscient qu'au minimum conscient que tout cela se fonde néanmoins sur des structures anthropologiques qui sont celles de l'existence. Mais après, c'est pas le rôle non plus des anthropologues de montrer cette fondation ou de se référer directement à cette fondation. Mais au minimum de pas la nier, quoi. Hein, au minimum de pas développer toute une interprétation, toute une théorie, en fait, hein, toute une théorie complexe et cohérente, mais qui se passe de ce fondement.
Et celui qui observe, il y a aussi, de toute façon, une médiation, puisqu'il n'observe jamais un fait direct. C'est ce qu'on vient de voir. Donc lui-même est sujet. Donc de toutes les façons, il serait en part. Donc il n'y a pas une objectivité. J'ai l'impression que c'est en direct de ce qu'on... C'est des deux côtés, c'est non seulement sur la personne observée dont on veut comprendre des choses, dont on veut tirer du jus ou tout ce que tu veux, mais soi-même en fait.
Alors sur l'accès direct à l'objectivité, en fait la phénoménologie a déjà réglé ce problème. Elle a déjà réglé ce problème en disant justement que ce qu'on peut considérer comme objectif, c'est le complexe sujet-objet. C'est-à-dire ce qui est objectif, c'est un certain en soi pour un certain pour soi. Parce que un en soi séparé d'un pour soi, ça n'existe pas, c'est indescriptible. Tout en soi est pour un certain pour soi, puisqu'on prétend en parler, on prétend décrire, connaître. Donc forcément, ce qu'on peut simplement connaître, c'est le rapport. Et donc Sartre, il donne des exemples de ça très très frappants dans L'être et le néant, qui sont... La température, par exemple, on dit la température objective, c'est celle qui est donnée par le thermomètre, tandis que chacun peut ressentir différemment la température qu'il fait en étant plus ou moins chaud. Et Sartre dit, l'objectivité du thermomètre n'est pas plus objective que celle de chacun qui dit, moi, je sens qu'il fait très chaud ou plus ou moins chaud. Elle n'est pas plus objective parce que c'est le rapport entre un environnement et un instrument, l'instrument mesureur. Cette objectivité-là, c'est ce rapport-là. C'est l'environnement par rapport à cet instrument. Et les autres objectivités, c'est le même environnement par rapport à un autre instrument qui est le corps de chacun. Et il n'est pas plus vrai que l'autre. Il dit tout est aussi vrai, et simplement, c'est parce qu'on cerne le même objet par des aspects différents. Et chacun atteint d'une certaine manière l'objet. Mais il n'y a pas une vérité ou une plus grande vérité, parce qu'elle passerait par l'instrument et pas par le corps vécu. Donc ça c'est vraiment très très intéressant. Et là évidemment Sartre se repose sur le fait qu'il a déjà établi ça.
Sur le qu'on peut supposer, c'est l'utilité d'un instrument qui doit mesurer une quantité quelle qu'elle soit, c'est qu'on va prendre plusieurs fois
on va mesurer plusieurs fois la température, et si le thermomètre ne fonctionne pas, il va donner la même température. Un individu, il ne va pas forcément trouver qu'il fait chaud, je caricature, de la même manière, selon son état personnel. Donc il y a quand même ça qui joue. Enfin, il exagère, enfin, il oublie un peu peut-être. Enfin, il y a quand même une enfin, c'est pas de la même nature.
Oui, mais...
Pour reproduire la même expérience, c'est à la fois sur le thermomètre, où on obtiendra dans ce contexte particulier la même température, le même résultat.
Oui, mais quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt d'obtenir tout le temps le même résultat ou pas?
Non, l'intérêt, c'est d'avoir un référent commun à tout le monde.
Ouais, tout. C'est ça.
Le problème est là, parce que si demain je veux faire une étude quelconque où il rentre en jeu la température, je vais avoir 25 personnes dans la salle, ils vont chacun me donner un ressenti. Mais si j'ai vraiment besoin de parler, d'avoir un langage commun, il n'y a que le thermomètre qui va dire, voilà, il fait 27 degrés, que vous ayez chaud ou froid, c'est un autre sujet. Mais ça donne une référence commune à tout le monde. C'est le problème du référentiel.
Oui, c'est ce qu'on pense toujours, hein. Mais en fait, c'est faux. Pourquoi ? Parce que... Non, en fait, il y a deux objections, disons, à ce qui est effectivement l'impression habituelle. Une première objection, c'est que ce n'est pas commun, justement, puisque ce n'est pas tout le monde qui a ressenti qu'il faisait 27 degrés. Donc ce n'est pas commun, en fait. Ce qu'indique le thermomètre n'est pas commun. Il y en a peut-être quelques-uns des individus qui auraient dit ça et les autres auraient dit autre chose. Donc ce n'est pas le commun, justement, des individus, c'est juste autre chose. Alors ça, c'est une objection mineure. Mais le plus important, c'est que, en fait, vous l'avez suggéré vous-même, ça dépend de la finalité, c'est-à-dire c'est... En vue de quoi est-ce qu'on mesure la température ou est-ce qu'on éprouve la température? Tout dépend de la finalité. Si la finalité...
Il est clair qu'à un moment, il faut qu'on parte sur un référentiel commun.
Non, parce que ça dépend encore une fois de notre objectif. Si il s'agit de construire, par exemple, avec des matériaux qui réagissent différemment selon la température, donc on a tous la finalité de construire, donc on est tous d'accord que ce qui est important... c'est que le matériau résiste comme il faut, donc on va le mettre à la bonne température. Mais ça, le commun, il est là. Le commun, c'est la finalité. C'est parce qu'on est tous d'accord sur la finalité. Et donc, l'objectif, c'est le dispositif objectif, c'est le rapport entre la température mesurée par l'instrument et le matériau le matériau sur lequel on doit agir et l'air ambiant, donc la température ambiante. Donc c'est le rapport entre tout ça qui fait un système, et c'est ce système qui doit avoir une certaine correspondance, une certaine cohérence. C'est ce système-là. Parce que c'est notre finalité à ce moment-là. Mais si la finalité, c'est de savoir si on va ouvrir la fenêtre ou pas, on s'en fout du thermomètre. On s'en fout du thermomètre. Ah oui, mais c'est très important, cette différence. Parce qu'il y a une sacralisation dans notre société actuelle, il y a une sacralisation de l'exactitude scientifique. Mais à quoi elle nous sert dans notre vie quotidienne ? Oui, il y a des tas d'exemples où elle nous sert. Alors, on est d'accord sur la finalité. Ce n'est pas toujours le cas. Il faut se méfier des sacralisations qu'on ne voit plus parce qu'on est tellement dedans, quoi. Mais en ce moment, c'est la science exacte, ça, c'est sûr.
Marc ? Je voudrais revenir là. On tourne autour de la vérité. Et bon, d'après ce qu'il en ressort, il y a une vérité intentionnelle, on peut dire que c'est Euclide, on peut dire que c'est la température. Après, il y a la vérité des faits. Les faits, on peut dire l'Allemagne a envahi la Tchécoslovaquie ou à telle époque et tout. Et puis, il y a l'opinion. Tout à l'heure, tu as parlé, il y a l'opinion. Et l'opinion, actuellement, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que, est-ce que l'opinion est une vérité? Et est-ce que la vérité intentionnelle et la vérité des faits sont aussi fortes que ça pour lutter contre l'opinion ? Voilà, c'est... En ce moment, on est dans un... Je pense qu'il y a, il y a des faiblesses à des endroits qui permettent à l'opinion d'avancer. C'est-à-dire, ça, c'est philosophiquement, lorsqu'on emploie le mot vérité, je pense qu'il y a des faiblesses. Il y a des faiblesses dans... Voilà. Et là, un peu dans ce qui a été échangé et tout, on s'aperçoit que une vérité des faits, ça ne veut pas dire grand-chose que le thermomètre il soit à 27 et que tout ça et tout. C'est je sais pas, c'est, pour moi, c'est, Il y a la relation entre ces trois soi-disant vérités, qui sont des vérités sans être des vérités, parce que même le théorème d'Euclide, il n'est pas figé, il évolue et il permet d'avancer. Il y a les faits, ça dépend comment on les interprète, qui les interprète, et puis il y a l'opinion. L'opinion, est-ce que ça devient la vérité actuellement? On le voit dans les sociétés, l'opinion est en train de devenir la vérité. On le voit, et l'opinion, c'est pas les individus. L'opinion, c'est travailler, c'est quelque chose qui est travaillé, c'est un processus.
Oui, alors je me demande s'il n'y a pas quand même une certaine ambiguïté dans le mot opinion, comme tu l'utilises, parce que l'opinion dans le contexte de la vérité, c'est c'est justement une sorte d'échappatoire pour ne pas vérifier, hein, pour dire, moi je crois cela, hein, voilà, je crois, j'adhère à cela, ou je m'en contente, même si je sais que c'est peut-être pas vrai. C'est une sorte de paresse par rapport à une recherche un peu plus approfondie. Okay. Mais peut-être que dans le sens où toi tu parles, c'est plus le jugement, c'est plus l'opinion en sens de jugement sur une situation, diagnostic sur ce qui est en train de se passer et sur ce qu'il faudrait faire. Donc en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est toute la compréhension de la situation et le désir de ce qu'on veut en faire. Donc beaucoup plus que ça, ce que tu appelles l'opinion dans ce cas-là. Et l'opinion, donc en fait, c'est quasiment l'état d'esprit d'une certaine société. La vision qu'elle a d'elle-même, la compréhension qu'elle a de ce qui se passe. Et ça, évidemment, que... ça entre dans une autre question qui est comment est-ce que les idées influencent les individus ? Et donc, on va reprendre cette question au moment où on parlera de l'aliénation. Parce qu'en gros, c'est de ça qu'il s'agit, quoi. C'est comment des idées véhiculées aliènent les gens parce que les gens croient que ce sont les leurs, alors qu'elles leur viennent subrepticement, sans qu'ils s'en rendent vraiment compte, d'ailleurs, et ne sont pas justifiées. Donc, c'est tout ça. Et ça, effectivement, on peut l'appeler opinion, mais c'est vraiment dans un sens plus vaste, plus vague, mais auquel on reviendra. C'est en rapport avec l'aliénation, c'était ça, non? Bon, je pense qu'on a épuisé l'heure et nous-mêmes, et qu'on se revoit la semaine prochaine.